Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Pouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Prions.
Excellent Père de gloire, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont des examens, ceux qui ont été au COP. Merci Seigneur parce que tu les as accompagnés, j'en suis certain, comme tu l'as si bien fait, comme nous te l'avons demandé. Nous avions demandé que pas une goutte de pluie ne les frappe. Tu l'as fait. Nous te rendons grâce Seigneur, nous te louons pour cela. Nous te demandons qu'il en soit encore ainsi, que tout ce que nous t'avons demandé pour ceux qui vont au BPC, que ceux qui vont au bac, soit accompli au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur pour cette chose extraordinaire que tu fais, que tu continues de faire dans nos vies. Merci Seigneur, merci, merci, merci infiniment. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié. Amen. Comment allez-vous? Alors, je suis surpris que vous n'avez pas encore fait les attentes. Donc, on va y aller très, très vite. Je pensais que vous auriez déjà fait les attentes. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à ce séminaire? Comment sortir de votre Égypte, traverser votre désert et entrer dans votre Jéricho? Est-ce que vous avez compris au moins de quoi on parle déjà pour pouvoir exprimer vos attentes? On y va. Est-ce que vous avez compris de quoi on parle? Oui? Oui?
Merci. Bonsoir tout le monde. Tel que le titre a été structuré, je pense qu'il s'agit de difficultés parce que on vient de suivre un exposé tout à l'heure où on a parlé de la vie de l'esclavage des Israéliens en Égypte. Donc je considère que l'Égypte ici soit entendue comme difficulté. Comment y traverser les difficultés? Et Jéricho, c'est la terre promise. Pour moi, c'est comment retrouver un regain d'activité après avoir parcouru une difficulté. C'est ce que je m'inspire le titre tel que ça a été structuré. Merci.
Merci. Il y a un peu de ça dedans, mais c'est infiniment plus grand ce dont il s'agit. Alors, qui en attend quelque chose parce qu'il a compris? Oui, Richard, je crois.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et à travers le thème, moi j'ai compris comment sortir de nos difficultés, de notre misère, de notre galère, comment traverser tout cela et finalement retrouver une vie meilleure. Donc comment passer de cette vie de galère, de misère à une vie meilleure.
Oui, c'est la même chose, il y a un peu de ça dedans, mais c'est plus précis évidemment. Peut-être que la précision viendra avec l'enseignement. C'est un peu ça, mais c'est encore plus précis. Quelqu'un a-t-il autre chose à ajouter? Donc, alors, s'il n'y a pas d'autres attentes par rapport à ça, je vais peut-être y aller, peut-être que vous comprendrez mieux. Alors, oui, il y a l'idée effectivement de sortir des difficultés. Mais au-delà de l'idée de sortir des difficultés ici, il y a un processus particulier que nous ne remarquons pas, auquel nous ne faisons pas attention, mais qui fait la différence entre un païen et un vrai chrétien. Et un processus là qui explique la différence non seulement entre un païen et un vrai chrétien, mais entre beaucoup de chrétiens qui ne portent pas de fruits, donc qui, si on doit se fier à la parole de Dieu, sont des faux chrétiens, et les vrais chrétiens qui portent des fruits. C'est très, très important. Il faut bien connaître l'état des lieux aujourd'hui. L'état des lieux aujourd'hui, c'est que nous avons d'un côté les païens, on sait qu'ils ne croient pas en Jésus, encore que certains disent qu'ils croient en Jésus, mais ils ont d'abord les païens, le monde, qui ne connaissent pas Jésus. Après les païens, nous avons tous ceux qui se disent chrétiens, qui vont à la messe tous les dimanches, qui font des chapelets, qui sont au chemin de croix, qui sont au veillés, qui jeûnent. Mais à moins de les suspendre dans une activité spirituelle qu'ils font pour montrer qu'ils sont chrétiens, quand tu les vois, ils ne sont en rien témoins de Jésus. Ils n'ont ni amour, ni patience, ni joie. Ils n'ont aucun des fruits du Saint-Esprit. Ils ne démontrent en rien le Saint-Esprit. S'ils ne mettent pas l'autocollant sur leur voiture, poisson, Jésus est Seigneur, ou bien s'ils ne mettent pas l'autocollant sur leur voiture, si tu ne les croises pas au chemin de croix ou à la messe à 7 heures, tu ne sauras jamais qu'ils sont chrétiens. Rien en eux ne ressemble à un chrétien. C'est des arbres sans fruits, le genre d'arbre que Jésus a coupé. Et ça, c'est hélas la majorité des chrétiens. Des gens qui sont chrétiens depuis 10 ans, depuis 20 ans, mais qui tous les jours sont de plus en plus pauvres, qui tous les jours sont malades, qui tous les jours sont tristes, qui tous les jours ont des soucis, qui tous les jours n'ont aucune paix, dont la vie ne peut plaire à personne. Alors que Jésus a dit que si tu es chrétien, tu dois être le sel pour les autres, c'est toi qui dois être la lumière. Donc là où il y a l'obscurité, tu dois amener la lumière. La majorité des chrétiens aujourd'hui n'ont rien éclairé dans leur vie. Ils n'ont rien salé dans leur vie. Leur vie ne plaît à personne. Ils ne sont un sujet de gloire pour le Seigneur, presque en rien. Mais ils vont à l'église. Ils ont des pasteurs, ils ont des prêtres. Ils jeûnent, ils prient. Et généralement, c'est les champions de toutes les veilles de prière. Ils sont dans toutes les églises tous les vendredis soirs à faire les veilles de prière, à chicoter Satan, à le gifler, à l'attacher, à le poignarder. Mais leur vie ne change pas. Pourquoi? C'est dans ce processus-là que ça s'explique. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Jésus a dit qu'il y a des gens qui vont même faire des miracles en son nom. Donc, pour faire des miracles, c'est qu'on a déjà atteint un grand niveau. Mais ce jour-là, il dira qu'il ne les connaît pas. Des chrétiens qui vont faire des miracles au nom de Jésus. Et ce jour-là, Jésus dira qu'il ne les connaît pas. Comment est-ce possible? C'est toujours dans ce processus que ça s'explique. Nous allons peut-être rappeler brièvement l'histoire tout à l'heure. Il semblerait que vous l'ayez fait dans la première partie. Mais l'histoire, c'est que Dieu a promis depuis Abraham que les descendants d'Abraham hériteraient de la terre promise de Jéricho. Quand Abraham a reçu l'appel de Dieu de quitter la terre de ses parents et de se mettre en mouvement, Dieu lui a promis la terre promise. Et plusieurs siècles avant que l'histoire de la sortie d'Égypte ne se produise, il lui avait déjà prophétisé qu'il aurait une descendance qui serait grande, qui serait nombreuse, qui irait en captivité en Égypte 400 ans et qui sortirait d'Égypte après 400 ans pour accéder effectivement à la terre qu'il lui a promise. Donc la terre promise, c'est la terre promise par Dieu à Abraham pour le récompenser de lui avoir fait confiance, d'avoir abandonné la maison de son père et de se mettre en mouvement vers cette promesse de Dieu. Dieu a promis à Abraham que, aussi nombreux que sont les étoiles du ciel, les grains de sable de la mer, sa descendance sera nombreuse et que le monde entier sera béni en lui. Entre-temps, parmi les descendants d'Abraham, Abraham a eu Isaac et Ismaël. Ismaël, c'est l'enfant qu'il a eu parce qu'il n'a pas été capable de faire confiance à Dieu. Dieu promet un enfant. Abraham commence à vieillir. Je crois qu'il devait avoir presque 90 ans. Sa femme, comme parfois des amis, comme des gens qui nous aiment bien, donc ce n'est pas des gens qui ne nous aiment pas, quand Dieu nous a promis quelque chose qui n'est pas encore arrivé, essaie de nous dire, mais Dieu t'a promis ça. Raison de plus, il faut aider un peu Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que les choses se fassent comme Dieu le veut, on nous convainc qu'il vaudrait mieux nous mettre en mouvement pour aider Dieu. Aider Dieu en faisant quelque chose qui ne ressemble pas à Dieu, que Dieu ne nous a pas demandé, mais pour aider Dieu à faire ce qu'il a promis. Comme s'il fallait que nous intervenions pour que Dieu arrive à faire ce qu'il a promis. Donc, comme Sarah était vieille, quand même plus de 80 ans, Abraham devait avoir presque 90 ans ou plus, je ne me rappelle plus d'un détail. Sans dire franchement, Dieu a promis un enfant, mettez-vous à leur place, ils ont quand même un peu raison humainement. À l'âge que nous avons là, je pense que nous n'avons pas dû bien comprendre. Dieu n'a jamais dit un enfant qui va sortir de notre ventre. Peut-être que c'est un enfant juste de la famille. Ça peut être un enfant d'Abraham sans être un enfant de Sarah. Dieu, c'est Abraham que Dieu a promis. Donc Sarah dit, comme ce n'est pas à moi que Dieu a promis, bon, prends ma domestique et fais-lui un enfant. Au moins, tu auras ainsi aidé Dieu à honorer sa promesse. Ne connaissant pas encore assez bien Dieu, ne sachant pas à quel point Dieu fait tout ce qu'il dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira toujours. Il n'y aura jamais rien que Dieu a dit qui soit trop compliqué pour lui et va vouloir réajuster la chose, réajuster la promesse ou changer d'avis. S'il le dit, c'est qu'il le fera. Même si tu es mort, s'il dit que tu as fait quelque chose, il va te réveiller pour que tu le fasses. Parce qu'il est Dieu. Abraham n'avait pas encore connu ça. Il a donc voulu aider Dieu. Il a conçu Ismaël, qui est devenu un grand sujet de chagrin pour lui. C'est un enfant qu'il aimait, mais Dieu a tout fait de lui dire, cet enfant-là ne me concerne pas. Je ne t'ai pas demandé d'aller faire enfant à une domestique. Moi, je t'ai dit que je te donnerais un enfant. ça va être un enfant avec ta femme légitime. Donc, ce n'est pas la peine de t'agiter. Moi, Dieu, je vais te donner un enfant. Tu n'es pas encore trop vieux. Et effectivement, le moment venu, Dieu lui a dit, dans un an, tu auras un enfant. Et un an après, il avait Isaac, l'enfant de la promesse, l'enfant du plan de Dieu. À un moment, Abraham ayant été ainsi éprouvé par Dieu, ayant eu plusieurs expériences, plusieurs épreuves de foi avec Dieu, a atteint le niveau quand même de savoir que quand Dieu parle, il vaut mieux lui faire confiance. Parce qu'il se débrouille toujours. Et c'est ça qui a permis, parce qu'on nous dit, bon, il a été prêt à tuer Isaac. Mais Abraham a déjà une série d'expériences avec Dieu qui lui ont montré qu'avec ce Dieu-là, il vaut mieux ne pas se stresser, il va se débrouiller. Donc, après toutes ces leçons, je vous ai déjà dit, quand Dieu nous apprend quelque chose, il nous envoie une épreuve pour confirmer qu'on a compris. Après toutes ces formations, toutes ces épreuves, Dieu a envoyé à Abraham l'épreuve suprême de la foi pour voir si maintenant il a compris la leçon. L'enfant de la promesse qu'on attend depuis longtemps et qu'on a eu à plus de 90 ans là, arrive. Dieu dit maintenant, au moment où on s'attache plus à l'enfant, prenez-le puis sacrifiez-le. Comment ça? Comment Dieu peut se contredire comme ça? Dieu dit, j'ai dit, tu le tues, point final. Si c'est quelqu'un qui doit dire non, 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 Dieu, ça ne peut pas être Dieu qui a parlé. Dieu ne peut pas me donner l'enfant de le tuer. Mais Abraham, connaissant Dieu, dit, bon, c'est lui qui est Dieu. On fait comme il veut. Il va se débrouiller. Il a promis que j'aurai une descendance à Isaac. Il va se débrouiller. S'il veut que je le tue, moi je le tue. C'est son problème. Et effectivement, il a tout organisé. Il a attaché Isaac, il a préparé le feu, il a tout fait. Il ne lui restait plus qu'à égorger Isaac. Il avait déjà pris le couteau, il l'avait levé. Quand Dieu intervient pour dire, je sais maintenant que tu me fais confiance, tu as réussi le test ultime de la foi. Regarde là, il lève la tête, il voit un mouton. Et voilà, c'est ça que tu vas sacrifier. Laisse ce petit Isaac. Donc, Dieu a pourvu à l'objet, c'est ce que nos frères musulmans se remémorent à travers la Tabaski. Dieu a pourvu à l'objet du sacrifice, parce que son but n'était aucunement que Isaac meure. C'était de demander à Abraham la chose à laquelle il tient le plus pour voir s'il fait plus confiance à Dieu lui-même qu'à la chose à laquelle il tient le plus. Et vous pouvez écrire. Les histoires de la Bible ne sont pas là pour raconter des histoires aux enfants qui n'ont rien à faire. Ce n'est pas des contes. Tout ce qui est dans la Bible est fait pour édifier, encourager, fortifier, guider quelqu'un. Ce qui se passe dans la Bible, c'est un scénario pour vous donner le mode d'emploi, le mode opérationnel de Dieu. La plupart des choses qui sont arrivées aux personnages bibliques vous arrivent, mais vous n'avez pas souvent le discernement de voir que c'est ça qui vous arrive. À chacun de vous, il sera déjà arrivé, ou il arrivera forcément un moment où vous devrez, par la foi, renoncer à ce qui vous tient le plus au monde. Tant que vous n'allez pas arriver à renoncer à cette chose, vous ne passerez pas à la prochaine étape spirituelle. C'est clair. Ça m'est arrivé, ça arrive à tous ceux qui vont loin avec Dieu. Il y aura quelque chose auquel vous tenez plus que tout. Soit votre père, soit votre mère, soit votre femme, soit vos enfants, soit de l'argent, soit la politique, soit un péché, l'adultère. Il y a toujours quelque chose. Ou bien vous avez investi pendant des années des dizaines de millions dans des pratiques occultes, des bagues, des talismans. Vous avez toute une artillerie de produits occultes qui vous ont coûté une fortune, qui fait que dans votre village, vous êtes le champion de l'occultisme. Personne ne peut vous défier. Le jour arrivera, Dieu dira, vous brûlez tout ça, on ne bouge pas. Parfois, c'est un caractère. Vous êtes alcoolique, vous êtes fumeur, vous aimez trop les femmes. Vous avez toujours quelque chose. À un moment, Dieu s'arrête, dit là, maintenant là, tu me sacrifies ça où on ne bouge pas. Tant que vous ne sacrifiez pas, on ne bouge pas. Beaucoup de gens qui arrivent au Seigneur ne vont jamais loin et ne portent pas des fruits. Parce que dans l'histoire de la foi, dans la marche avec le Seigneur, c'est un voyage avec différentes étapes. Quand on arrive à une étape, c'est comme dans les films, dans les jeux vidéo, vous arrivez, il y a des étapes, on arrive quelque part, il faut combattre, si tu gagnes, tu passes à la prochaine étape, si tu échoues, tu meurs là. C'est pareil dans la foi. Vous allez tout le temps arriver à des carrefours où il faudra combattre et gagner le combat de la foi pour passer à l'étape suivante. Si vous ne gagnez pas le combat, au mieux, vous redoublerez et vous repasserez l'épreuve jusqu'à ce que vous le passiez. Au pire, parfois, votre destinée s'arrête là. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur destinée spirituelle parce qu'ils n'ont pas été présents à un rendez-vous avec Dieu ou qu'ils n'ont pas été capables d'emporter un combat avec Dieu. Donc, notez-le, si ça ne vous est pas déjà arrivé, ça vous arrivera. Ce moment-là, rappelez-vous. Tous autant que vous êtes, ce n'est pas un privilège qu'Abraham a eu qui est terminé. Tous autant que vous êtes, ça peut vous arriver une fois, ça peut vous arriver plusieurs fois. Mais il vous arrivera d'avoir à choisir entre Dieu et la chose auquel vous tenez le plus au monde. Rappelez-vous qu'on ne peut pas aimer davantage le fournisseur que ce qui est fourni. Il n'y a rien que vous ayez auquel vous puissiez tenir que vous avez fabriqué, dont vous soyez maître. Votre propre vie ne vous appartient pas. Quelqu'un vous réveille. Vous n'avez pas choisi de naître et vous ne pouvez pas choisir quand vous allez mourir. Votre propre vie ne vous appartient pas. à plus forte raison, rien qui est dans cette vie ne vous appartient. Tout vous a été donné. Je ne vois pas au nom de quoi vous pouvez choisir entre celui qui donne tout et l'une des choses qu'il donne, la chose qu'il donne. Si vous comprenez que Dieu est le fournisseur de tout, vous allez toujours le préférer à tout. Parce qu'il n'y a rien que lui ne puisse pas donner à nouveau. Mais si vous préférez quelque chose à lui et que lui vous lâche, il n'y a rien ni personne nulle part qui pourra vous attraper. Même votre propre vie. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Quelqu'un essaie de perdre sa vie pour moi, il la gagnera. Vous n'avez pas le choix. Faites attention. Dieu va souvent vous donner des dilemmes, va vous donner des rendez-vous où vous devrez choisir entre lui et quelque chose qu'il vous a donné. Si vous choisissez la chose plutôt que lui, vous aurez des problèmes. Et cela vous bloquera. Abraham a donc fait le bon choix. Abraham, qui a donc eu Isaac, Isaac a eu Jacob. Il a eu plusieurs enfants, Esau et Jacob, vous connaissez l'histoire, on va refaire toute l'histoire biblique ici. Jacob a eu plusieurs enfants, dont Joseph. Et Dieu dit que Joseph sera le maître de ses frères. Il sera le roi, il va être un grand prince, il va sauver ses frères au moment de la famine. Quand il a fait ce rêve-là qu'il a partagé avec ses frères et son père, on aurait pu penser qu'il allait l'applaudir. Non. Son père, je ne sais pas s'il l'a cru, je ne me rappelle plus trop, mais je sais que ses frères l'ont cru, mais l'ont estimé dangereux. Ils ont décidé de le tuer parce qu'ils estimaient qu'il était donc une menace pour eux. Ils avaient décidé de le tuer quand, heureusement, certains d'entre eux craignaient un peu Dieu, ont fini par dire, bon, au lieu de le tuer, vendons-le à des esclavagistes. C'est comme ça que Joseph a été vendu et Dieu a permis qu'ayant été vendu comme esclave, il soit revendu comme esclave en Égypte. Cela veut nous dire une autre leçon. Quand Dieu va vous annoncer, comme ça arrivera souvent, et ça arrivera de plus en plus, votre destinée, la vision qu'il a pour vous, le projet qu'il a pour vous, il ne faut pas vous faire d'illusions. Le monde ne vous applaudira pas, ne vous félicitera pas, ne vous aidera pas. Le monde vous combattra. Et généralement, les gens les plus proches de vous combattront votre vision. Ils vous combattront. Même si Dieu te dit, dans ta famille, les gens ont toujours été pauvres. Je te rendrai l'homme le plus riche du Bénin pour délivrer ta famille et faire de ta famille une grande famille. Si tu dis ça à ta famille, ils vont te condamner, ils vont te persécuter, ils vont te tuer. Ils ne verront pas que tu feras d'eux une grande famille. Ils verront que dans la famille, tu seras le plus grand. Et ils vont chercher à te neutraliser. Quand vous n'êtes pas prévenu, vous êtes surpris que les gens pour qui vous vous battez, ou les gens sur qui Dieu vous a établi, que le troupeau que Dieu vous a donné vous persécute. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Qui l'a tué? Ceux qu'il est venu sauver. Et vous allez voir que dans la plupart des cas, c'est ceux auxquels vous essayez de faire le plus de bien qui vont être utilisés par Satan pour vous persécuter. Ne soyez pas surpris. C'est normal. C'est la destinée, hélas, de tout serviteur. Mais si vous êtes en Dieu, si Dieu est avec vous, vous passerez toutes ces épreuves. Parce que Dieu veille sur sa promesse pour l'accomplir. Rien ne peut empêcher ce que Dieu a dit de s'accomplir. Si Dieu dit que vous serez quelque chose, aucun homme ne peut l'empêcher. Il peut vous tuer, il ne peut pas l'empêcher. Parce que ce que la bouche de Dieu a dit, personne ne peut l'empêcher de s'accomplir. Quel que soit l'état et les circonstances. C'est ainsi. Donc, Joseph s'est retrouvé en Égypte. Vous connaissez certainement l'histoire. Il continuait de croire en son Dieu. Il ne s'est pas découragé. Il n'est pas devenu aigri. Souvent, quand vous êtes blessé dans la vie, vous devenez aigri, vous devenez rancunier. Vous manquez de respect à tout le monde. Vous ne voulez plus rien faire de bien. Parce que vous estimez que du fait d'avoir été vendu, du fait d'avoir été trahi, vous avez le droit de devenir arrogant, imbécile, idiot, méchant. La plupart des gens qu'on voit dans la société qui sont méchants, qui sont aigris, qui sont frustrés, qui sont agressifs, sont des gens blessés. Mais au lieu de transformer leurs blessures en étant des gens de foi, se disant tout ce que Dieu fait est bon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au lieu de patienter pour voir qu'est-ce que Dieu fera, ils décident de se venger eux-mêmes, ils décident de devenir cyniques, ils décident de ne plus croire en rien, ils décident de se comporter n'importe comment. Ce n'est pas ce que Joseph a fait. Joseph a continué d'être un homme qui craint Dieu, d'être honnête, d'être un homme de foi, de faire ce qu'il faut, de servir. Il était esclave, il a été un tellement bon esclave qu'on a fait de lui le chef des esclaves. À un moment, la femme de son patron, qui le trouvait beau, a voulu avoir des relations sexuelles avec lui. Il a refusé. Parce qu'il a refusé, vous connaissez les femmes, elle est partie dire à son patron que c'est lui, Joseph, qui voulait la violer. C'est comme ça que les femmes sont. Oui. Donc, parce que il a refusé, elle est partie dire à son patron qu'il a essayé de la violer et que ça n'a pas marché. Entre nous, entre la parole d'un esclave et la femme du roi, qui peut oser dire que l'esclave ment? Personne. On a donc décidé, à contre-cœur, mais c'était comme ça, de mettre Joseph en prison. Joseph avait une deuxième raison, si c'était un bon Benoît, comme j'en connais, de se frustrer. J'ai été honnête, j'ai refusé de coucher avec sa femme, en plus il m'envoie en prison, tant pis pour lui, c'est un ingrat, il va devenir aigri, il va se fatiguer, il va se stresser. Joseph est resté positif, toujours honnête, toujours serviable, toujours gentil. Tellement qu'en prison, il était tellement bon qu'on a fini par faire de lui le chef des prisonniers. Et là, en prison, Dieu étant merveilleux et un plan, il a rencontré quelqu'un qui a découvert qu'il avait des dons, qui a découvert que Dieu l'utilisait, qui a découvert qu'il avait une grande sagesse. Quand avant lui, cette personne a été libérée, cette personne a été dire au pharaon, donc à l'empereur égyptien, je vous précise que Joseph n'était pas égyptien. C'est comme si on amène un Béninois en prison aux États-Unis parce qu'il a fait la drogue et que vous apprenez 10 ans après qu'il est devenu président des États-Unis. C'est ça l'histoire de Joseph. Joseph n'est pas devenu président de son pays. C'est comme un Béninois qui va en prison aux États-Unis pour la drogue et 10 ans après vous apprenez qu'il est devenu président des États-Unis. C'est ça l'histoire de Joseph. Donc, ce type-là sort de prison, il va dire à pharaon, à un moment où il y avait de grands problèmes, je connais un prisonnier qui est capable de régler nos problèmes. C'est comme ça, je résume les choses, bien entendu. C'est comme ça qu'on a sorti Joseph de prison. On l'a consulté. À l'époque, on était à 7 ans d'une grande famine. Dieu a montré qu'il était avec Joseph, a donné à Joseph une grande sagesse. Quand Joseph a proposé au pharaon son plan d'action pour échapper à la famine, le pharaon a été impressionné et a décidé de nommer Joseph, qui venait de la prison, premier ministre d'Égypte. Et ça a permis à Joseph de mettre en place ce qu'on appelle le plan Joseph, qui est ce qu'on n'a jamais fait de mieux en économie. Toutes les leçons d'économie sont dans le plan Joseph. On n'a rien inventé de mieux depuis. Par les temps de crise, les dirigeants devraient lire simplement Joseph au lieu de se fatiguer. Et s'ils ont envie de reconstruire quelque chose, il faut lire Néhémie au lieu de se fatiguer. Néhémie a reconstruit le mur, il a refondé le mur en 53 jours. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'agitation pour construire un mur. Il suffit de lire Néhémie et d'appliquer la méthode de Néhémie. Et si on veut gérer l'économie, on n'a pas besoin d'aller beaucoup à l'école. Il faut appliquer la méthode de Joseph. Tout est écrit, il ne faut pas qu'on se fatigue beaucoup. D'accord? Donc, Joseph devient pharaon, devient premier ministre d'Égypte. Et évidemment, la famine en temps est arrivée, mais l'Égypte s'en sortait très bien puisque Joseph avait mis en place un plan d'action qui faisait que, dans tous les cas, ne pouvait pas souffrir de la famine. On en était là. Quand les frères de Joseph, qui sont restés donc en Israël, la famine était telle là-bas qu'ils ne pouvaient plus rester là-bas, ils mouraient de faim, les gens commençaient à se manger, il n'y avait plus d'espoir là-bas. C'est un peu comme s'il y a tellement de famine au Bénin, mais au nom de Jésus, ça n'arrivera jamais. Quand on demande à quelques Bénois de faire un tour du côté du Nigeria pour voir si on ne peut pas avoir un peu plus d'espoir là-bas. Vous les voyez maintenant, ils vont au Ghana, ils vont au Nigeria, ils vont en Côte d'Ivoire, comment ça va durer en Afrique, dès que ça chauffe un peu. C'est comme ça que le père de Joseph a demandé à quelques-uns de ses frères de faire un tour en Égypte, puisque apparemment en Égypte ça va mieux, pour voir s'ils ne peuvent pas ramener de là-bas un peu de nourriture et voir quelles sont les possibilités là-bas. Ils sont partis là-bas et Dieu étant merveilleux, eux ils n'ont pas reconnu Joseph. Celui qui porte les coups oublie toujours. Mais Joseph les a reconnus. Joseph qui les a reconnus a fait en sorte qu'on leur donne ce qu'il fallait et a demandé qu'ils fassent venir toute la famille. Quand finalement il s'est révélé à eux comme étant leur frère qu'il a vendu, vous imaginez bien comment ils se sont sentis, tout petits. Mais Joseph était un homme de Dieu. Il n'a pas dit, bon, maintenant je vous tiens. Allez, massacrez-les-moi, détruisez-les-moi, affamez-les, faites-en des esclaves. Il les a honorés, il les a aimés, il les a équipés, il leur a donné tout ce qu'il fallait. Il en a fait quasiment des princes en Égypte. Et ils ont vécu heureux. Ils ont vécu tellement heureux qu'ils se sont multipliés et sont devenus un peuple nombreux. Pendant que Joseph vivait, ils ont profité de toute la notoriété, de tout le prestige que Joseph avait en Égypte. Jusqu'à ce que Joseph meure. Et que ce pharaon qui était là, qui connaissait bien Joseph, meure. Et qu'un autre pharaon arrive. Et comme le plan de Dieu, jusque-là, ils n'étaient pas esclaves. Hein? Les Israéliens n'étaient pas encore esclaves en Égypte. Ils étaient partis comme immigrés volontaires en Égypte. C'est quand le régime a changé, ça change dans tous les pays, tôt ou tard, ça change toujours, que, pourquoi vous riez? Quand le régime a changé, que le nouveau pharaon qui est arrivé, s'est dit, ces petits-là, franchement, ils sont trop nombreux, ils sont bénis, ils ont tout, c'est qui d'abord? Et progressivement, au lieu d'en faire des gens bénis, au lieu d'en faire une classe privilégiée, il les a transformés en esclaves. Ils ne pouvaient plus suivre, ils sont déjà là. Donc, progressivement, il a changé les lois, il a changé les dispositions. Et ce peuple qui était, je dirais, rayonnant grâce à Joseph, est devenu captif de l'Égypte. On a commencé à en faire des gens qui faisaient les corvées, qui travaillaient comme esclaves, qui subissaient, qu'on martyrisait, qu'on faisait travailler sans rien leur donner. Bref, ils sont devenus des esclaves. Et ils ont subi cet esclavage-là pendant plus de 400 années. Entre-temps, alors que malgré qu'on les faisait souffrir, ils continuaient de se multiplier, le pharaon a été jusqu'à décider qu'on tue désormais tout enfant garçon qui naît dans le peuple d'Israël. Pour éviter qu'il continue de proliférer comme ça, un peu comme Hérode a essayé de le faire à l'époque de Jésus, il a décidé qu'on tue tout enfant garçon qui naisse. Et on en a tué beaucoup parce que des consignes étaient données aux sages-femmes pour que dès la naissance, si c'est un garçon, on le tue en même temps. Mais comme rien ne peut arrêter, parce qu'il ne faut pas voir les hommes, il faut voir Satan. Satan connaît l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, là, Satan sait comment ça va se terminer. Hein. C'est les hommes qui s'agitent. Satan sait d'où il vient, il sait où on va. Le reste, c'est qui s'agite. Satan, donc, sachant ce qui va se passer, avait donc obtenu, manipulé Pharaon pour tuer tous les enfants mâles. Comme rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut, un enfant est né, Moïse. Il devait être tué comme tous les enfants. Mais comme par hasard, les sages-femmes n'ont pas eu, ils n'ont pas senti la conviction de le tuer, disant que Dieu les a empêchés de le tuer. Bien au contraire, ils l'ont mis dans un panier, ils l'ont sauvé, et ironie du sort, c'est la fille du Pharaon qui a décidé de tuer tous les garçons, qui se prend d'affection pour cet enfant-là, et qui adopte le petit Moïse, qui est un enfant israélien, qui aurait dû être tué, mais qui n'a pas été tué. Ce faisant, Moïse devient donc un enfant adoptif de la famille royale égyptienne. Il grandit donc, élevé comme un enfant d'Égyptien par une princesse égyptienne. Il a donc grandi dans la cour royale. Il a grandi au palais. Pour tous les Israéliens et pour tous les Égyptiens, Moïse était donc un prince égyptien. C'est un détail de taille, parce que vous verrez plus tard, parce que Dieu ne se contredit jamais, que Moïse a dû diriger le peuple d'Israël. Moïse a été quelque part un roi d'Israël, même s'il n'avait pas le titre de roi, il a été roi. Or, la Bible dit ceci, un esclave ne peut pas devenir roi. C'est écrit, un esclave ne peut pas devenir roi. Quand vous regardez bien dans le monde, et pas forcément très loin, vous verrez ce que ça donne quand les esclaves deviennent des rois. Un esclave ne peut pas devenir roi. Il va vouloir tout casser, il va vouloir tout révolutionner, il va vouloir brimer tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui sont rois, tous ceux qui sont nobles, parce qu'il a un complexe d'infériorité. C'est un peu ce qu'on appelle chez nous enfants Yanvi. Quand Yanvi devient roi, il va vouloir brimer tous les Nyan et tous les Médiomains. C'est comme ça que ça se passe. Et donc Dieu, dans sa sagesse, a dit qu'il n'est pas normal qu'un esclave s'asseye à la table des rois. Comment, s'il y a un peuple d'esclaves comme Israël, qui, sans violer la parole de Dieu, peut être roi? Personne, à moins qu'il soit un étranger. Regardez par quel scénario Dieu fait de Moïse un esclave, mais prince parmi les esclaves. Ce qui le qualifie à être roi. Parce que Moïse, ce qu'on oublie, c'est qu'il a reçu une éducation de roi, pas une éducation d'esclave. Dieu ne subit pas l'histoire, il écrit l'histoire. Moïse grandit donc comme prince, mais ce qui devait arriver arrive. Il a après tout du sang juif. Quand il voit la manière dont les Égyptiens maltraitent les Juifs, cela l'énerve, et comme il est un peu colérique, à un moment il voit un juif en train d'être martyrisé par un Égyptien, il se fâche, il se bat avec l'Égyptien, et l'Égyptien meurt. Donc il tue par erreur un Égyptien. Lui, il est prince égyptien, mais il tue un Égyptien en train de martyriser un Juif. Dans la précipitation, il est obligé de fuir, donc il prend ses affaires, il fuit l'Égypte, et il va se réfugier dans le désert. Où Dieu étant merveilleux, il rencontre le clan, le groupe de Jéthro, qui deviendra finalement son beau-père puisqu'il va épouser la femme, la fille de Jéthro. Cela veut dire que fuyant du palais royal, je vous raconte l'histoire pour que vous compreniez que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il est calme, il n'est pas stressé, il a son plein puis rien ne peut l'empêcher. Le reste, c'est que les hommes s'agitent. Depuis Abraham, il avait déjà dit qu'ils vont rester en captivité 400 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Même quand ils ont oublié, lui, ce qu'il a dit, s'est accompli. Donc, quand il est parti dans le désert, donc chez Jéthro, il est devenu berger, parce que Jéthro est un berger. Il a donc refait sa formation de berger. Il est devenu berger. Et c'est pendant qu'il était berger, relativement chevronné, parce qu'il a passé des dizaines d'années dans le désert, que Dieu l'a rencontré dans le buisson ardent pour lui dire, « Maintenant, ça suffit. J'ai entendu tes frères qui sont en Égypte en train de m'appeler au secours. Le temps que j'ai donné pour leur captivité est terminé. Maintenant, tu vas te lever, tu vas les délivrer. » Moïse dit quoi? Moi, Moïse a retourné dans un empire terrible comme ça avec le pharaon pour que je vais délivrer quoi? Avec qui? Et avec quoi? Non, moi je ne peux pas. J'ai dit, c'est toi qui vas y aller. Tu vas aller, non seulement tu vas les délivrer, mais tu vas aller affronter Pharaon pour les délivrer. Il dit, comment je vais faire? Qu'est-ce qui moi je suis? Il dit, parfait, tu iras avec ma force. Un peu comme il a dit à Gédéon après, je te donne un bâton, je te donne l'onction. Dieu lui a fait plein de démonstrations de force pour dire, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Moïse avait peur. Bon, finalement, il y a été quand même. Mais l'une des choses que je voudrais que vous notiez là, c'est quoi? C'est que pour préparer Moïse, après le palais royal, à être un roi, Dieu en a fait un berger. Est-ce que vous avez remarqué que David a été berger? Que Jésus se définissait comme le bon berger? Que Jacob a été berger? Que Abraham a été berger? Vous ne vous demandez pas pourquoi? Celui qui n'est pas capable de garder un troupeau, de veiller sur chaque bête, Une bête estropiée, une bête qui titubie doit le voir, une bête qui a faim, une bête qui te paye va la chercher, de les guider, de leur parler, de rester sous le soleil, de rester sous la nuit, de rester dans la jungle, d'affronter les lions comme David pour son brebis. Celui qui n'est pas capable de risquer sa vie jour et nuit avec patience mais avec force pour un troupeau de brebis ne mérite pas de diriger des hommes. À celui qui est fidèle dans les petites choses, on va confier de grandes. Quelqu'un n'est pas capable de diriger des moutons, on ne peut pas lui confier des hommes, sinon ça donne ce que le monde a aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas capables de diriger un mouton. Ils ne sont pas capables de diriger une association. Ils ne sont pas capables de diriger un quartier. On leur a confié des pays. Ça donne ce que ça donne. Regardez bien. Tous les grands chefs de Dieu, il en a fait d'abord des bergers. Et il se définit lui-même comme le bon berger. Le berger sait par exemple que nous sommes à telle saison. Dans une semaine, il fera trop chaud, il n'y aura plus de nourriture ici. Même s'il y a de la nourriture ici, dès aujourd'hui, il fait mouvement pour le troupeau. Nous allons dans telle direction. On va dire, mais pourquoi il y a de la nourriture? Lui, en tant que berger, il sait que dans une semaine, la pluie va commencer, on ne pourra plus rester ici. Mais comme il faut 2 jours, 3 jours pour atteindre le prochain point, dès aujourd'hui, le berger dit, nous changeons de direction. Qui est le mouton pour discuter avec le berger sa manœuvre? Nous sommes des moutons. Quand Dieu dit, change de direction, nous commençons à pleurer. Alors que lui voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce que nous ne savons pas. Il connaît demain, après, demain, toujours. Nous, on ne le sait pas. Quand il dit de changer de direction, il sait pourquoi il dit de changer de direction. Pourquoi un mouton peut discuter avec un berger la direction qu'on va prendre? Seigneur, non, je te prie, laisse-moi ici, c'est ici que je suis béni. Qu'est-ce que tu sais de la bénédiction demain? Tu es béni aujourd'hui là. Tu sais si demain il y aura la bénédiction là? Vous devez vous rappeler que Dieu a dit qu'il est le bon berger. Il nous conduit comme un bon berger vers les verts pâturages. Tout marche aujourd'hui. ICC. Dieu dit à certains partez. Au moment où il dit partez, ICC est bon. Et il faut être fou pour partir. Mais quand ICC se casse, les autres qui ont suivi le bon berger sont loin depuis longtemps. On dit comment ils ont fait. Ils ont un berger qui a été plus visionnaire que les autres. Il faut avoir la vision pour aller vers les verts pâturages au moment où il faut. Si vous attendez que l'herbe manque complètement là où vous êtes, avant de bouger, parfois il est trop tard parce qu'il faut plusieurs jours pour atteindre le prochain pâturage. Dieu est capable de faire ce genre de mouvement. C'est pour ça que tous les grands leaders de Dieu ont été des bergers. Si vous arrivez à conduire un troupeau de moutons, vous êtes un début de candidat pour conduire des hommes. Si vous n'avez pas la capacité de conduire un troupeau de moutons, il faudra aller l'apprendre avant de chercher à avoir des responsabilités au niveau des hommes. Donc, Moïse revient en Égypte et il annonce au peuple israélien que Dieu l'a envoyé pour les délivrer. Évidemment, on a commencé à se moquer de lui. Toi là, idiot, tu as fui, tu es parti, tu reviens, tu veux nous créer encore des problèmes maintenant. Il a tout dit, ils l'ont pas cru. Il a fini par les convaincre plus ou moins. Ils ont dit, bon, qu'est-ce que tu dis que tu peux? Essaye, on va voir. N'attendez pas que les gens que vous devez sauver, n'attendez pas que les gens que vous devez conduire soient convaincus que vous avez raison. Ils le comprendront généralement toujours trop tard pour être sauvés. Vous devez faire certaines choses malgré eux. On n'attend pas qu'un enfant comprenne que c'est dans son intérêt d'être bien éduqué pour l'éduquer. On l'éduque avec ou contre sa volonté. Et quand il grandit, il dit heureusement que mes parents m'ont bien éduqué. Un parent qui ne veut éduquer son enfant que comme l'enfant veut est un irresponsable. Un leader qui ne va faire avec les gens qu'il dirige que ce qu'il veut est un irresponsable. Parce qu'ils n'ont pas l'âge de comprendre ce qui est bon pour eux. Dans votre famille, dans votre entreprise, dans tous les domaines, dans votre ménage, dans votre pays, dans votre association, un leader doit pouvoir, quand il est convaincu par Dieu, imprimer une direction que ça plaise ou non. Parce que les autres, c'est pour ça qu'il est la tête et non la queue. Les autres sont une queue. Si la tête attend la queue pour bouger, on ne bouge jamais. C'est pour ça que la démocratie est un système diabolique. C'est un système dans lequel il faut que tout le monde croit que c'est bon ou que la majorité croit que c'est bon pour qu'on fasse. Or, la majorité est toujours bête. On enseigne en sociologie. Une foule est toujours bête. Une foule fonctionne par instinct, l'instinct grégaire. La foule est toujours bête. Une foule peut lapider quelqu'un. Là aussi, tu prends individuellement les gens qui composent la foule, personne ne voudra tuer quelqu'un dans sa vie. Quand vous êtes enfant là, vous pouvez tuer quelqu'un. Quand vous êtes quelque part, tout le monde commence à lancer la pierre au voleur, vous lancez la pierre aussi. Vous avez tué quelqu'un. Alors que si on prend tout seul, vous ne pouvez même pas gifler le voleur, même s'il est attaché. Quand on est dans un groupe, on est bête. Parce que les groupes sont généralement bêtes. Et nous savons que dans tout groupe, prenez la loi de Pareto, vous allez voir que 20% est bon, 80% est mauvais. L'histoire d'un peuple se joue dans les 20% de l'élite. Vous prenez n'importe quel groupe, n'importe quelle famille, il y a 2 personnes qui disent qui écrivent l'histoire de la famille. Tout le reste, c'est des compléments d'effectifs. C'est une loi de la vie. On appelle ça la loi de Pareto. La démocratie fait que ce sont les déchets des nations qui conduisent la nation. Et c'est ce que nous voyons tous les jours. Regardez dans tous les pays. Les gens les plus brillants n'arrivent jamais à diriger le pays. les Fabius, les Soglo, ils n'ont aucune chance de rester là. Pourquoi? Ils sont brillants et le brillant est toujours minoritaire. Si nous sommes dans un système où la majorité choisit, la majorité est toujours complexée par la minorité brillante. Elle écrase toujours la minorité brillante. Elle crucifie toujours la minorité brillante comme Jésus lui-même a été crucifié. L'autorité de quelqu'un ne peut venir que de Dieu, sinon il ne peut pas diriger. Si quelqu'un tient son autorité des hommes, il ne pourra jamais diriger les hommes. Donc la démocratie est un système satanique qui est en train de perdre le monde et qui le perdra encore longtemps. Si dans votre maison, vous avez 4 enfants, une femme, 2 domestiques, ça vous fait peut-être 8 personnes. S'il faut voter vos décisions dans la maison, vous ne gagnerez jamais. Si vos enfants de 2 ans ont les mêmes droits d'opinion que vos enfants de 18 ans, que vous-même, que votre épouse et que vos domestiques, et que ce n'est pas votre compréhension décision dans votre maison, vous pouvez diriger votre maison. Si dans une entreprise, il faut voter toutes les décisions, et que les employés ont le même droit de vote que le président de l'entreprise, on peut avancer. Mais pourquoi ce qui est impossible dans une maison devrait être possible dans une nation et qu'elle marche, si nous ne sommes pas tous bêtes? Pourquoi un paysan qui n'a jamais vu une ampoule, qui ne sait même pas ce qu'on appelle une électricité, peut avoir le même poids quand on parle de l'avenir du Bénin que quelqu'un qui est à Cotonou, qui a vécu dans le monde, qui a traversé plusieurs pays, qui a de la vision, qui a de l'inspiration, qui a été à l'école? Comment ils peuvent se valoir si on est sérieux? Mais la démocratie dit, suffrage universel, ils se valent. Et on dit pourquoi on a des mauvaises autorités? Mais parce qu'ils sont élus par la majorité est comme elle est. Et si la démocratie est le choix de la majorité, les gens ne choisissent que ce qui leur ressemble. C'est pas normal? Ou bien, Moïse n'était pas le choix des Israéliens. Il leur a été imposé. Et vous le verrez par la suite. Chaque fois qu'il y a eu un peu de difficulté, ils se sont majoritairement levés contre Moïse. Ils ont commencé à protester. La propre sœur de Moïse, à un moment, a protesté avec eux. Mais chaque fois qu'ils ont protesté, que Moïse ait raison ou pas, parce que par exemple, dans le cas de sa sœur, Moïse n'avait pas tout à fait raison. Dieu a frappé ceux qui sont rebellés contre Moïse. Il y a des fois où Dieu a ouvert la terre et la terre a englouti les gens qui s'opposaient à Moïse. Parce que quand Dieu donne de l'autorité à quelqu'un, si quelqu'un s'oppose à son autorité, la personne s'oppose à Dieu lui-même. Et Dieu frappe. Si un président de la République nomme un préfet, vous faites une attaque contre le préfet, le président envoie l'armée pour vous mater parce qu'une attaque contre un préfet, c'est une attaque contre le président. Si vous gagnez l'attaque contre le préfet, vous allez attaquer la présidence. Une autorité est établie par Dieu. Vous allez voir dans la Bible nous donne plein de moyens pour combattre le mal, pour combattre Satan, pour combattre le péché, pour combattre l'iniquité, pour combattre les païens. Mais quand il a reçu les autorités, il dit, ne vous en prenez jamais une autorité. Une autorité, on prie pour lui. Même quand ils étaient en Égypte, Dieu leur demandait de prier pour les autorités égyptiennes parce que leur vie dépend des autorités égyptiennes. Une autorité a pouvoir de vie et de mort sur vous. L'opposition est une bêtise, c'est un manque de sagesse. Ça ne sert à rien. Aucune opposition ne peut faire tomber un chef. Si Dieu est fatigué du chef, il le fait tomber avec ou sans l'opposition. Si Dieu n'est pas fatigué du chef, avec ou sans l'opposition, personne ne peut le bouger. Et quand Dieu veut bouger un chef, il n'a pas besoin d'une opposition. Aucune opposition n'a fait partie quelqu'un au Gabon. Aucune opposition n'a fait partie au Togo. Aucune opposition n'a fait partie en Éthiopie. Et même là où les oppositions se sont levées, si Dieu ne dit pas oui, il ne bouge pas. Regardez en Israël avec Saül. Il n'a pas eu besoin d'opposition. Quand il a déconné, Dieu s'en est occupé lui-même. Celui qui aurait pu être l'opposant, c'est David. David dit, moi je refuse d'être opposant. On a tout fait, on lui a même donné le roi. Il dit, moi je ne lui ferai rien. Moi je ne suis pas opposant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'en est occupé lui-même et de manière plus efficace que si les hommes s'en occupent. C'est des leçons qu'il faut retenir de la parole de Dieu. Ce n'est pas fait que pour chanter, pour danser. Donc, il revient, pas avec le soutien des Israéliens, mais bon, ils ont fini par le laisser faire. Et nous allons commencer donc là l'histoire, l'une des histoires les plus merveilleuses de la Bible. Comment ce peuple en captivité, dans un empire phénoménalement puissant, peut-être l'empire le plus puissant, même pas peut-être, c'était l'empire le plus puissant de l'époque. C'est l'équivalent aujourd'hui des États-Unis de la Chine réunis. Vous êtes un petit peuple comme un peuple de Béninois, captif dans une alliance chino-américaine. Comment vous faites pour vous délivrer? Vous n'avez pas d'armes, vous n'avez rien. Un gars vient, il dit qu'il est loin par Dieu, avait pour mission de vous sortir de leur griffe. Comment est-ce possible? C'est ça la plus belle histoire. Et à ce moment, qu'est-ce que Dieu fait? Il demande à plusieurs niveaux, à plusieurs fois, à Moïse d'aller voir avec Aaron, son frère, qui était un peu son collaborateur que Dieu lui a assigné, demande d'aller voir Pharaon, donc le chef, et de lui demander de laisser partir son peuple. Et c'est pas il fait de faire de guerre, faire des coups d'État, faire des complots. Il dit, va les voir en face de ma part et dis-leur. Donc, quand Dieu veut agir, joue carte sur table. Ce n'est pas histoire de conspiration. Vous allez rarement voir Dieu demander à des gens de faire des conspirations, des complots. Dieu est droit. Quand il veut t'enlever là, il dit, va le voir. Dis-lui que j'ai dit de vous laisser partir. C'est une leçon importante de la vie. Évitez tous les plans qui consistent à faire des choses en sous-marin, des conspirations, des coups bas. Non, Dieu est un Dieu de lumière, il ne fait rien qui soit à l'ombre. Si vous vous sentez obligé pour faire quelque chose, de commencer à le faire à l'ombre, de le cacher, de le faire dans le noir, c'est déjà que c'est une mauvaise chose. Ce qui est bien, ne le cache pas. Et Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui suppose que vous soyez obligé d'avoir honte de la chose. Il peut vous dire ponctuellement de vous tenir à l'abri des regards, comme quand il dit à Jésus, aux parents de Jésus, prenez-le, allez vous cacher en Égypte. Ou bien restez enfermé dans la tour forte après l'ascension jusqu'à la Pentecôte. Ça, c'est autre chose. Mais Dieu ne vous demandera pas de faire des conspirations, des coups bas, tant de pièges à quelqu'un, voir comment il va réagir. Non, Dieu agit de manière directe, de manière transparente. Donc, ils vont voir Pharaon et demandent de la part de Dieu. Vous imaginez le culot? Deux petits individus comme ça, en plus des esclaves, dont l'un est recherché en Égypte depuis longtemps pour avoir tué un chef égyptien, ont se présenté maintenant, renforcés, confortés par l'autorité de Dieu devant Pharaon, avec un petit bâton, et disent à Pharaon de la part de Dieu que s'il ne laisse pas partir le peuple israélien, qu'il tient en otage depuis un demi-millénaire, donc presque 500 ans, que Dieu va le frapper. Évidemment, comme on pouvait s'y attendre, Pharaon ne les prend pas au sérieux. Et vous connaissez certainement la Bible, sinon retournez le livre dans l'Exode. Vous verrez, chaque fois que Pharaon s'est entêté, Dieu, par Moïse, a démontré sa puissance. Tantôt, c'est un bâton qui devient un serpent et qui engloutit les serpents des Égyptiens. Tantôt, c'est une pluie de grenouilles. Tantôt, c'est toutes les eaux d'Égypte qui deviennent du sang. Tantôt, c'est une obscurité opaque. Tantôt, c'est quoi? C'est des moustiques et je ne sais plus trop quoi qui les assaillent. Bref. Dieu a multiplié les katas, comme on pourrait le dire dans un bon film de karaté, pour frapper l'Égypte, pour affaiblir l'Égypte, pour blesser l'Égypte. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette série de coups portés par Dieu à Pharaon? Première chose, Dieu semble savoir, il savait dès le début, que Pharaon allait s'entêter après un coup, deux coups, trois coups, jusqu'à 10 coups. Il le savait. Et je note même quelque chose qui est stupéfiant, qui continue de me faire réfléchir, c'est que Dieu semble dire, après chaque coup, à Moïse, parce que Moïse dit, ah, tel qu'on a fait cette démonstration force-là, je suis sûr que Pharaon va le laisser partir. Parfois même Pharaon dit partir, avant de changer de décision. Et Dieu dit toujours quelque chose qui me fascine. Il dit non, je vais endurcir son cœur et ne vous laissera pas partir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dieu, qui leur demande de laisser partir les Égyptiens, endurcit lui-même le cœur de Pharaon. Et Pharaon dit non. Ah, c'est la bonne question. Pourquoi selon vous? Pourquoi? Oui?
En fait, ce que moi j'ai compris, c'est pour montrer au peuple d'Égypte et aussi à tout le monde entier jusqu'à présent qu'il est capable de beaucoup de choses pour qu'on puisse savoir qu'il est fort et qu'il peut faire très mal et très bien en plus.
Je crois qu'il y a un peu de ça dedans. Une démonstration de force. Oui, Dieu utilise certains scénarios pour servir de leçon pour la postérité. Et je crois que de toute évidence, Pharaon a eu la malchance d'être utilisé comme cobaye pour montrer aux gens de quoi Dieu était capable quand il est fâché. Oui?
C'est vrai que Dieu utilise certaines choses pour nous montrer qu'il est fort et qu'il peut le faire. Et moi, je pense que Dieu l'a fait pour que chaque chrétien puisse savoir dans sa vie que par rapport à telle ou telle voie, par rapport à tel ou tel problème ou tel sujet, ce n'est pas parce que nous avons pu franchir un obstacle, arriver à tenir ferme dans une épreuve que c'est déjà fini. Et puis, il faut rapidement que Dieu nous donne ce qu'on veut quand nous on veut. Mais c'est pour nous amener à avoir la patience, à attendre son heure pour avoir ce qu'il veut nous donner.
Oui, il y a de cela. Mais pour comprendre cela, il faut que les gens comprennent quelque chose que je n'ai pas encore dit. C'est qu'en réalité, dans l'histoire du chrétien, c'est là où on devait faire le lien. La sortie d'Égypte, c'est la sortie du monde. L'Empire égyptien est historiquement le meilleur exemple de ce qu'il y a de païens, d'idolâtres, de sorcellerie, d'occultisme. Jusqu'aujourd'hui, quand vous êtes dans les groupes ésotériques, là, on va vous parler de pyramides, de Khéops. C'est-à-dire, c'était le cœur mondial de l'idolâtrie, de la méchanceté, de la puissance au sens humain. C'était le quartier général de Satan sur la terre. Et pour Dieu, vaincre Pharaon, c'était vaincre le QG, l'armée satanique même. Et en réalité, dans la Bible, la sortie d'Égypte, l'Exode, est une métaphore de l'Exode de tout chrétien qui, à un moment, décide de quitter le monde qui est l'Égypte pour rentrer dans le royaume de Dieu. Hélas, Quand on sort de l'Égypte, on voudrait aller directement à Jéricho, encore que tout ne s'est pas arrêté à Jéricho. Beaucoup de choses ont été jusqu'à Golgotha. Bref, les gens croient qu'il leur suffit de sortir de l'Égypte pour se retrouver à Jéricho. Et la vérité, c'était que Jéricho était à peine à 11 jours de marche de l'Égypte. Mais finalement, ils ont passé 40 ans à aller de l'Égypte à Jéricho. Pourquoi on le verra tout à l'heure. Donc, sortie d'Égypte, c'est sortie du monde. Sortie des boîtes de nuit, sortie des femmes, sortie de la prostitution, sortie de l'amour de l'argent, sortie de la cupidité, sortie de tout ce qui fait la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Mais quand vous voulez sortir de là, Satan, qui est ici représenté par le pharaon, ne se laisse pas faire comme ça. Il ne suffit pas qu'on lui dise « Libère-moi cette âme-là pour qu'il la libère ». La difficulté qu'il y a eu à sortir les Israéliens d'Égypte est similaire à la difficulté que vous avez obtenue que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Regardez comment parfois on poursuit des gens, on les évangélise, on leur parle de Jésus. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'ils sont sur le point de dire « Je viens au Seigneur ». Et puis vous tournez, rien ne se passe. Pourquoi ? Dieu a frappé. Souvent ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils deviennent un peu sensibles à Dieu. Ils sont malades sur un lit d'hôpital. C'est Dieu qui a frappé. Ils ont envie de dire « Oui au Seigneur ». Mais que la plaie là soit guérie, ils se rebiffent encore. Ils viennent à l'église deux fois et puis ils partent encore. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu frappe. Il vacille un peu. Le gars qui n'est pas très sage croit qu'il va capituler. Mais Pharaon retourne, il dit « Non, je ne laisse pas partir. » On continue le combat. Même quand son fils est mort, finalement, qui lui a dit de partir, quand même, quand tu as subi tout ça, quelle idée de poursuivre encore les gars jusqu'à rentrer dans la mer. Mais il est encore parti pour vous dire que même quand vous allez sortir d'Égypte, Satan ne vous oublie pas, hein. Il vous poursuivra encore. Bien que Dieu aura fait tout ce qu'il faut pour vous arracher à lui, pour vous déconnecter de lui, bien qu'en temps, par le sang, Jésus sera venu vous arracher forcé à lui, malgré tout ça, il va encore vous poursuivre. Certains de ces soldats vont rester dans la mer. D'autres vous poursuivront. Il était encore là avec eux dans le désert, puisque beaucoup d'entre eux ont encore été punis dans le désert. C'est-à-dire qu'il était toujours derrière eux. Et il est encore derrière nous jusqu'à aujourd'hui. C'est même pas. Il y a de la maturation, effectivement, mais c'est l'idée que sortir d'Égypte n'est pas une mince affaire. Satan ne vous libérera pas. Et si vous êtes chrétien que vous allez à la conquête d'autres âmes pour le royaume, Satan ne délira pas les gens parce que vous l'aurez demandé. Il résistera. C'est un combat de longue haleine. Vous devrez lui porter beaucoup de coups au nom de Dieu avant qu'il ne finisse par les relâcher. Et même quand il les aura relâchés, ça ne sera pas encore totalement gagné. Et quand vous regardez bien, si vous faites une certaine recherche, vous verrez que la plupart de ces plaies-là étaient des plaies qui correspondaient à quelque chose. Parce que pour comprendre ce que madame a dit, il faut savoir que c'est l'histoire de la sortie du monde. Et c'est là où vous comprenez que même quand vous sortez du monde, même quand vous voulez sortir du monde, ça ne sera pas tout. Ça ne sera pas gagné d'avance. Et c'est pour ça que je vous disais, beaucoup de gens sont chrétiens. Ils croient qu'être chrétien, c'est fini. Comme beaucoup de gens sont morts dans le désert parce qu'ils ont cru que sortir d'Égypte, c'est fini, tout est réglé. Sortir d'Égypte, ce n'est que le début du commencement. Même le grand Moïse, il est sorti d'Égypte, mais il n'est pas rentré à Jéricho. Ça, c'est notoire. Vous imaginez avec tout ce que Moïse a fait, Moïse n'est pas entré à Jéricho. Vous connaissez plein de gens, des bishops, des extra-bishops, des prophètes des nations, des prophètes au carré, au cube international. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un grand titre spirituel qu'il est agréé de Dieu. Vous croyez qu'on peut faire beaucoup mieux que Moïse? Ah, mais Moïse n'est pas entré à Jéricho. Il n'est pas entré là où coule le miel. Il a mangé de la manne toute sa vie. Ça devrait nous faire réfléchir. Le combat de la foi, c'est un combat de longue haleine. Et je disais donc que chaque épreuve correspondait à l'humiliation d'un dieu égyptien. Si vous cherchez bien dans l'histoire, que ce soit les grenouilles représentaient des dieux en Égypte. Dieu de je ne sais plus trop quoi, fertilité ou je ne sais pas trop quoi. Le Nil, c'était le dieu de la vitalité, le dieu de la vie parce que c'est l'eau. Le soleil qui s'obscurcit ou devient sombre, c'est le dieu Rex, dieu soleil jusqu'à il y a aujourd'hui, enfant soleil, dont certains ont pris la date de naissance pour faire fête de Noël. Tout ce qui a été frappé en Égypte, c'était des dieux égyptiens. En fait, Dieu a frappé 7 fois les 10 dieux les plus puissants d'Égypte. Ils ont dit soleil, Dieu a frappé le soleil et il a disparu pour montrer que lui, il est plus fort que le soleil. Ils ont dit grenouille, Dieu a mis les grenouilles dans leur chambre pour leur montrer que c'est lui qui contrôle les grenouilles. Ils ont dit l'eau, le Nil, parce que l'Égypte était connue jusqu'à aujourd'hui, la vallée la plus fertile au monde, c'est la vallée du Nil. Quand on dit l'Égypte, quand on dit la vallée du Nil, on dit l'endroit le plus fertile au monde parce que ce cours d'eau est extraordinaire de bénédiction. Dieu a transformé ce cours d'eau là en sang pour montrer que même l'eau là, c'est lui qui est le maître, ce n'est pas un dieu du Nil. Leurs enfants, parce que chez les Égyptiens, les rois étaient des dieux, les princes étaient des dieux. En tuant le prince, Dieu a tué le dieu suprême des Égyptiens. Et il a tué le premier fils, la chose la plus sacrée de chaque famille égyptienne. C'est-à-dire que pour sortir d'Égypte, Dieu va humilier dans votre vie toutes vos idoles. Une idole, ce n'est pas qu'un fétiche sur lequel on met de l'huile rouge, ou qu'on met de l'haricot, ou qu'on met du gari, ou ce genre de truc. Ça, c'est une forme d'idole que nous connaissons beaucoup dans notre pays. Mais la définition d'idole, c'est toute chose à laquelle vous donnez dans votre vie ou dans votre cœur la place de Dieu. Tout ce que vous prenez pour Dieu, tout ce en quoi vous placez votre confiance, est une idole. Si quand ça chauffe pour vous, vous allez voir une statue, vous mettez au pied de la statue, vous commencez à pleurer, cette statue n'est pas idole en tant qu'objet, mais elle est une idole pour vous parce que vous lui faites confiance pour vous sauver. Si quand ça chauffe, quand vous avez un grand problème, au lieu de prier Dieu, vous allez appeler votre maman, il y a des gens qui disent « Ah, ma maman n'est pas là, ma maman était là, moi, elle m'a aidé. » Dieu, lui, il est toujours là, il ne voyage pas. Si vous en êtes au point où, même quand Dieu est là, parce que votre maman a voyagé, vous pensez que vous êtes foutu, votre maman est une idole pour vous. Il y a des gens, c'est leur femme. Il y a des gens, c'est leurs enfants. S'ils ne voient pas leurs enfants, ils ne peuvent pas dormir. Si Dieu vous aime, il va briser un à un chacune de vos idoles. Il y a des gens, c'est l'argent. Ils pensent qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts parce qu'ils ont de l'argent. Ils sont prêts à tout, y compris à tuer des gens, à tuer des vierges, à vendre leurs propres enfants. Je connais des gens qui ont fait violer leurs propres filles par des gens parce qu'on lui a dit que c'était la seule manière d'avoir du pouvoir et d'avoir de l'argent. Ces gens-là croient tellement que l'argent, le pouvoir sont le pouvoir et sont tout, sont leur Dieu, qu'ils sont prêts à vendre leurs propres enfants pour acquérir l'argent. Des gens comme ça, quand Dieu veut les sauver, il va d'abord briser le Dieu argent dans leur vie. Il va les rendre complètement pauvres, ils vont mendier. Parce qu'à ce moment-là, bon gré, mal gré, ils sont bien obligés d'arrêter de croire à l'argent. Ou en tout cas de constater qu'il ne les a pas sauvés. Si c'est votre maman qui est tout pour vous, n'importe quoi, maman, on dit d'aller à l'église, maman dit non, tu ne vas pas à l'église. On dit d'aller à l'église, papa dit non, tu ne vas pas à l'église. Si Dieu t'aime, il peut m'en dire, bon maintenant, maman, là, toi, si tu as vécu assez, viens de l'autre côté, on va voir comment il va faire. Votre maman va mourir. Aïe, il est foutu, ce petit-là, il ne peut rien faire, ça, maman. Dieu est en train de frapper vos dieux d'Égypte. C'est un poste politique. Il a toujours été député depuis sa naissance. S'il n'est pas député, il mourra. Quand Dieu veut te sauver, il va te faire perdre l'élection. Il va t'humilier par un petit garnement qui est né hier qui va te battre à l'élection. Et vous allez voir que la plupart des gens, y compris moi, bien au Seigneur, apprennent de grands problèmes. Ces problèmes sont des plaies que Dieu nous inflige pour détruire des dieux qu'il y a dans notre vie. Et parfois, il en donne un coup, on vient. Mais il y a des gens, ils donnent un coup, ils font semblant de venir, ils se relèvent, ils attendent. Ils donnent deux coups, ils donnent trois coups. Mais Dieu est persévérant. À un moment, si vous êtes trop têtu, il va vous laisser aller en enfer. Mais lui va d'abord essayer quand même de détruire un à un vos dieux afin que vous vous résolviez à sortir d'Égypte. Vous devez donc savoir que si vous êtes de ceux qui hésitent à venir au Seigneur, ou si vous connaissez des gens qui hésitent à venir au Seigneur, à moins que Dieu n'ait pas de plan pour vous, c'est sûr que vous allez essuyer des blessures comme en Égypte dans le but pour Dieu de vous montrer que vous ne pouvez faire confiance en rien d'autre que lui. Ça, c'était pour ce qui est des plaies. Pharaon a donc finalement décidé de la laisser sortir d'Égypte. Mais la dernière plaie intéressante, Dieu dit que là, maintenant, là, il va passer à la vitesse supérieure, il va tuer tous les premiers-nés. C'est-à-dire qu'il va mettre le deuil dans chaque famille égyptienne. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu va vouloir frapper tout le monde. Parce que l'Égypte était en volume plus important que les Israéliens. Et aujourd'hui, les païens sont en volume plus important que les chrétiens. Il y a des choses, il y a des catastrophes. Les crises en sont. Les crises économiques, les crises financières, les épidémies, il y a des choses où Dieu veut frapper en série. Mais Dieu dit, demain là, je vais frapper toutes les familles égyptiennes. Mais vous, qui êtes des miens, je ne vais pas vous frapper. Pour cela, vous allez immoler un agneau et vous allez mettre de son sang sur les poteaux et donc les linteaux de vos portes. Quand j'enverrai mon esprit, parce que quand Dieu veut frapper, il envoie un de ses anges avec mission de balancer le feu ou de balancer l'eau, de balancer ce qu'il veut. Quand mon ange qui va apporter la mort arrivera, s'il voit de ce sang sur la porte d'une maison, il sait que là, il y a l'un des miens, il ne touche pas. Mais toute maison qui n'a pas de sang, je frapperai de mort. Heureusement, ils ont suivi les consignes. Ils ont mis du sang sur leur porte. La mort a effectivement frappé jusque dans la maison de Pharaon, toutes les familles. Il n'y a même pas eu un chat qui soit mort dans la maison de ceux qui avaient du sang. Il y a là encore une autre grande leçon de manière prophétique avant l'arrivée de Jésus. Dieu nous démontrait déjà ainsi que ceux qui sont sous la protection du sang de Jésus, il y a un certain nombre de fléaux. Ou je dirais, tout fléau qui frappe de manière indifférenciée ou qui frappe le monde, ceux qui sont sous la protection du sang de Jésus sont invincibles. C'est comme un bouclier anti-missile ou anti-tout ce que vous voulez. On ne peut rien leur faire, rien ne leur arrivera. Ce sang-là, ce n'est pas qu'ils étaient parfaits. Ils avaient leur défaut, on l'a bien vu ensuite dans le désert. Ils n'étaient pas saints. Ils n'étaient pas parfaits. Mais du simple fait, quelle que soit leur qualité, il y avait des gens bons en eux, il y avait des gens mauvais en eux, les Corées, tout ça était là, peu importe. Mais indépendamment de qui ils sont, le simple fait d'avoir, en obéissant à Dieu, ce qui est la foi, eu le courage de se placer, ou l'obéissance plutôt, de se placer sous la protection du sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, c'est la même chose, a suffi pour leur assurer la vie. Et c'est pareil aujourd'hui. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous priez beaucoup. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous travaillez bien, que vous veillez beaucoup, que vous jeûnez beaucoup. Vous êtes sauvés parce que vous avez fait une confession de foi, parce que vous croyez que Jésus est mort pour vous, que vous croyez que son sang peut vous sauver et que vous vous faites esclave de sa vie et de son sang. C'est ça qui vous sauve. Ça vous garantit le ciel. Après, comme je dis, au ciel, il y a Vossa, il y a Diaco, il y a tous les quartiers au ciel. Ce qui est sûr, si vous avez donné votre vie à Jésus, et vous avez minimalement essayé de vivre en chrétien pendant que vous êtes sur la terre, vous irez au ciel, ça c'est clair. Et les plus vilains quartiers au ciel seront toujours meilleurs que la terre, ça c'est certain. Maintenant, si vous voulez être dans la salle où il y a Jésus lui-même, ce qui, moi, sera dans tous les cas, mon cas, c'est pas pour vous, mais moi, je serai là-bas, chacun a fait pour lui. La manière dont vous vivez avec Dieu déterminera votre rang dans le ciel, parce qu'il y a plusieurs niveaux de ciel. Mais dans tous les cas, ce qui vous sort de l'enfer pour vous mettre au ciel par défaut, c'est la foi dans le sang de Jésus. Point final. Il n'y a rien d'autre à faire. Et à la limite, toute autre chose que vous essayez de faire pour gagner ça, c'est une foutaise envers Dieu. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour gagner le salut, à part de vous mettre bêtement avec la confiance qui va avec, sous la protection de la croix. C'est déjà ça que de manière prophétique. Écoutez, leur sortie d'Égypte a commencé après la croix. Nous avons été par la suite délivrés définitivement de Satan par le sang de Jésus. Ils ont été délivrés de Pharaon par le sang de l'agneau. Nous avons ensuite été délivrés de Satan par le sang de Jésus. C'est le même sang. L'Ancien Testament, comprenez-le une fois pour toutes, est une répétition générale et une projection prophétique du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est qu'une réalisation, est un accomplissement de l'Ancien Testament. Les deux se répondent, ce n'est pas deux histoires différentes. C'est la prophétie et la réalisation de la prophétie. C'est pour ça que je dis aux gens qui ne veulent pas comprendre que tout ce qui a été écrit s'accomplira. 80% c'est déjà accompli. Ce qui reste s'accomplira forcément. Si un document de ce volume-là, en 6000 années, écrit par 40 personnes qui ne se sont jamais vues, qui n'ont même pas vécu aux mêmes époques, arrive à ne pas se contredire et que 80% de ce qui est écrit s'est déjà accompli, il faut être vraiment idiot pour croire que le reste ne s'accomplira pas. Si quelqu'un veut le croire, tant pis pour la personne. Je fais un peu de calcul de probabilité, vous verrez que ça va s'accomplir, que ça nous plaise ou non. Et donc, nous avons là notre grande leçon pour sortir d'Égypte, pour ne pas mourir en Égypte, pour ne pas subir les blessures de l'Égypte, pour échapper aux crises, à la famine, aux tremblements de terre, aux catastrophes, pour que des choses se passent, tout le monde meurt, on dit, il y a un seul survivant, on va voir, c'est un chrétien. Il faut être sous la protection du sang. Il faut se mettre à part le sang. Rien ne remplacera ça. Rien ne sera jamais plus fort que ça. On n'a pas besoin d'avoir une bague, un talisman, une croix, un chapelet, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de croire au sang et de déclarer par la foi, je me mets sous la protection du sang de Jésus. Donc, là, nous sortons d'Égypte. Notez donc que le sang les a protégés. Dieu a frappé une énième fois l'Égypte qui a dû les laisser partir. C'est ce qui se passe chaque fois que quelqu'un finit enfin par avoir la conviction du Saint-Esprit de donner sa vie à Jésus. C'est-à-dire que Satan perd prise. Bon, maintenant je suis fatigué, allez-y. Mais remarquez bien, je ne sais plus à quel plaie, à partir d'un certain nombre de plaies, Satan ou Pharaon a changé de discours. Dans les premières plaies, il disait, vous ne bougerez pas. D'accord? Après, son discours a évolué. Il a commencé à dire, bon, partez et revenez. D'accord? Dieu a frappé encore. Il a fini par dire, bon, partez, mais laissez-moi toutes vos richesses, tous vos animaux. Après, il dit, bon, ok, partez, prenez telle partie, mais laissez telle partie. Il a essayé chaque fois de négocier en faisant évoluer ce qu'il leur donnait, mais a essayé de toujours garder une partie. Et c'est là que vous voyez aujourd'hui beaucoup de faux chrétiens. De la même manière que finalement, eux, parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils ont refusé de lâcher prise, parce qu'ils ont continué d'accepter que Dieu frappe. Parce que, écoutez, Dieu a frappé, hein. Si Moïse et Aaron n'avaient pas été obéissants, et que chaque fois que Dieu dit, allez frapper à nouveau, ils auraient pu dire à la troisième plaie, franchement, Seigneur, on est fatigué. Fais histoire d'aller faire frapper à ta place là, ce gars va finir par nous tuer. Moi, je ne vais plus aller voir Pharaon, parce que souvent, il dit, si vous revenez, je vais vous tuer. Donc, quand Dieu dit, allez, encore la quatrième plaie, Moïse peut dire, Seigneur, maintenant ça suffit. Une fois ça va, deux fois c'est bon, Mais ce jeu-là me suffit à voir quelqu'un d'autre pour aller regarder Pharaon en face. Mais ils ont accepté chaque fois d'aller défier Satan, donc d'aller défier Pharaon, pour le frapper d'une nouvelle plaie, afin qu'il les laisse. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, on leur prêche l'évangile. Il y a des gens, peut-être ils sont malades, ils ont une plaie, ils ont quelque chose, on leur enseigne l'évangile, ou on fait quelque chose qui leur donne envie de venir au Seigneur. Mais Pharaon n'a pas changé. Bon, ils t'ont guéri, non? Ils ont dit de venir à l'église. Tu peux aller au verre de prière tous les vendredis, aller danser avec eux à l'église, mais ta bague là, tu ne laisses pas. Après, il dit, bon, ils ont dit d'enlever la bague, non, c'est pas grave. Tu peux faire ce que tu veux avec eux, va chanter, va danser, mais le crâne de ta grand-maman que j'ai mis sous ton lit là, tu peux tout faire, mais le jour où tu tout ça, je vais te tuer. C'est comme la mafia. Et vous voyez des gens comme ça, ils viennent à l'église, ils prient, demandent pardon à Jésus, tout ça. Mais il y a dans leur vie des choses où Satan dit, je t'ai laissé partir, mais ça là, ne touche pas ça. La question c'est, est-ce qu'ils ont le courage de revenir dire, je suis désolé Satan, hein? Dieu dit que ça là aussi, je frappe. Je pars ou pas? Si Satan dit non, il doit frapper, détruire ça, risquer ce que ça implique, jusqu'à ce qu'ils aient fait toutes les plaies, et que Pharaon dise maintenant, que Satan dise maintenant, je vous libère, partez, 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 je suis d'accord pour que vous n'ayez plus rien de moi en vous. Beaucoup de gens ne font pas ça. On vient à Jésus en gardant ses chapelets. On vient à Jésus en gardant ses croix. On vient à Jésus en gardant ses récitations. On vient à Jésus en gardant ses bagues. On vient à Jésus en gardant l'amour de l'argent. On vient à Jésus en étant toujours prostitué. On vient à Jésus en ayant toujours un certain nombre de choses qu'on sait bien être des choses de l'Égypte. Mais on a cédé à la négociation de Pharaon. Vous voulez partir, non? Partez, mais laissez-moi ça. Vous ne devez pas accepter de laisser quoi que ce soit à Pharaon. Parce que tant que vous avez quelque chose de Pharaon ou vous, vous êtes encore en Égypte. Vous n'irez nulle part. Vous allez avoir l'impression virtuellement que vous êtes sorti d'Égypte, mais vous êtes toujours en Égypte. Vous pouvez aller à l'église tout le temps. Vous allez avoir des gens qui viennent à la foi aujourd'hui. Demain matin, comme une fusée, ils sont loin, ils ont porté des fruits. Vous dites, mais pourquoi moi je suis là avant lui? Vous êtes là avant lui, mais vous êtes toujours en Égypte en réalité. Parce que vous n'avez pas encore frappé toutes les plaies d'Égypte. Vous n'avez pas encore détruit tout ce qui est en Égypte. Moi, l'une de mes grâces, j'ai donné ma vie au Seigneur, ça ne fait pas 4 ans. Quand les gens m'écoutent, ils disent, comment c'est possible? Tu es chrétien depuis quand? 3 ans, 4 ans. C'est pas possible, mais c'est possible. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai rapidement compris que pour aller loin avec Dieu, il faut faire tolérance zéro à Satan. Il faut le frapper, le bombarder, sans condition, fini avec lui une fois pour toutes. Si vous négociez avec Satan le péché, vous perdez du temps dans le désert. Il faut sortir rapidement du désert. Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont sortis d'Égypte, alors qu'ils y sont toujours, parce qu'ils n'ont pas renoncé à tout ce que l'Égypte a. Ils ont accepté de laisser une partie de leur troupeau, une partie de leurs bijoux, une partie de ci, une partie de ça. Leurs bijoux, c'est quoi? Leur trésor, leur argent. Bon, Seigneur, je te suis, hein. Mais moi, franchement, tous mes clients sont des francs-maçons. Permets que j'aille toujours réunir la franc-maçonnerie. Ça, c'est les négociations de Satan. Vous devez frapper cette plaie-là aussi. Sinon, vous êtes virtuellement toujours en Égypte. Vous aurez toujours la destinée d'un Égyptien, à savoir l'esclavage. Quand on veut sortir d'Égypte, on n'accepte pas les négociations de Pharaon. On frappe jusqu'à ce qu'il vous laisse partir sans condition. Vous sortez donc d'Égypte. Ne croyez pas que le combat est fini. Vous arrivez alors que la terre promise est à 11 km. C'est comme si on me dit d'aller à Porte-Nouveau. C'est à 30 minutes de Cotonou. Dieu a passé tous les siècles précédents à me promettre, alors que je suis à Cotonou, que je vais aller à Porte-Nouveau. Au moment où on me libère à Cotonou, je suis par exemple domestique, on me dit maintenant, va chez toi. Je prends le pont. Dieu dit non, reviens par ici. Prends le chemin d'Alada. On a dit Porte-Nouveau, non? Tu iras Porte-Nouveau, mais j'ai dit prends le chemin d'Alada. Tu vas aller jusqu'à Boïcon. Tu vas passer par le pays de Corvée Consort, dans Boïcon Sort, avant de venir à Porte-Nouveau. Mais pourquoi Seigneur fait grand détour? C'est comme ça. Et le pire, c'est quand il n'y a pas le goudron. Déjà, à partir de Claude-Dubé, c'est de grandes forêts jusqu'à Boïcon. Mais Seigneur, comment je vais traverser? J'ai dit que tu laisses le pont, tu me laisses la lagune, et tu passes par là-bas. Voilà exactement ce qui leur arrivait. Ils auraient pu prendre le chemin direct entre l'Égypte et Jéricho, 11 jours de marche à peine. Dieu dit non, prenez notre chemin. Le pire, c'est que ce chemin tombe directement sur la mer. Ce n'est pas la lagune, ce n'est pas un coup d'eau, hein, la mer. Et pendant qu'ils sont en train de fuir, que les Égyptiens sont derrière eux, Dieu les met face à une mer. L'armée qui veut les tuer derrière, une mer devant. À ce moment, ils ont, comme tout le monde, commencé à pleurer. Oui, tu as vu, on était tranquille là-bas. Même si on était esclaves, les gens nous nourrissaient bien, ils ne nous frappaient pas trop. Tu es venu? On a commencé à nous frapper, on a commencé à nous maltraiter. Ah, j'ai oublié quelque chose. Notez bien que, quand Moïse a commencé à réclamer à Pharaon le départ des Israéliens, la Bible dit que Pharaon a décidé d'aggraver leur châtiment, d'aggraver leur travail.
ils ont commencé encore à souffrir plus. Ça correspond à quelque chose dans la réalité. Ça correspond à quelque chose dans la réalité. Quand vous venez au Seigneur, vous ne voyez pas que le problème augmente? Si quelqu'un a vraiment donné sa vie sincèrement au Seigneur, il doit savoir qu'il va passer par une phase où c'est maintenant que vous allez connaître la vraie vie, la souffrance, là, vous allez la connaître. Satan va commencer à vous maltraiter pour vous faire dire, si c'est ça l'affaire de délivrance là, Moïse, laisse-moi l'Égypte, c'est mieux. On préfère encore essayer d'être esclave que de dire qu'on veut délivrer sous prétexte de délivrance, là encore là, plus de problèmes, c'est maintenant nous chicote, matin, soir, c'est maintenant que le travail est compliqué. Si c'est ça, laisse-nous tranquillement en Égypte. C'est ce qu'ils ont dit. Beaucoup de chrétiens disent ça. Ils viennent au Seigneur. Ils avaient un emploi, ils perdent leur emploi. Ils avaient une femme, ils perdent leur femme. Ils étaient, ils deviennent pauvres. Ils disent, ah, toi chrétien là, c'est comme ça, tu veux me blaguer, dis, c'est Seigneur, tous mes affaires se gâtent. Il va refuser, il va trouver dans le monde. Si les Israéliens pouvaient, ils auraient dit, Moïse, fous le camp, laisse-nous tranquillement être esclaves. Heureusement, ils n'ont pas pu. C'est pareil. Quand vous allez vouloir sortir d'Égypte, Pharaon va mettre la pression. Il va vous chicoter, il va vous frapper, il va vous ébranler. Il va éprouver votre foi. Si vous regardez ce que vous souffrez, vous ne partirez jamais d'Égypte. Vous allez trouver que l'Égypte est confortable. Mais l'Égypte, c'est l'esclavage. Il n'y a pas de confort dans l'esclavage. Mais si vous ne savez pas faire, il y a des jours, vous allez avoir l'impression que l'esclavage est meilleur que la liberté. Un esclave, au moins, le nourrit matin, midi, soir. Mais un homme libre peut parfois ne pas avoir de quoi manger. Mais la liberté sera toujours meilleure que l'esclavage. Si vous ne savez pas faire, dans la foi, aux premières épreuves, vous allez fuir inconsciemment pour retourner dans le monde. Mais si vous retournez dans le monde, vous êtes foutu. C'est un détail que j'ai oublié de dire, mais il est très très important. Ils se sont donc retrouvés devant la mer. Ils ont encore commencé à se plaindre. Se plaindre. Après 10 démonstrations de force de Dieu. Ça, c'est l'homme. 10 démonstrations de puissance. Ils sont arrivés au pied de la mer. Les 10 démonstrations de puissance ne leur ont pas suffi pour dire, mais le Dieu qui a pu faire ça là 10 fois, ces derniers jours-ci, quand même, il est capable de trouver une solution. Ils ont encore commencé à se plaindre, à maudire Moïse, à menacer Moïse. Ça, c'est le vrai problème. Tous les jours, Dieu fait des miracles dans votre vie. Tous les jours, il fait des miracles. Il n'y a pas un jour où vous n'avez pas de miracle. Tous les jours, vous êtes en moto en train de rêver. Vous évitez un accident avant de réaliser que vous avez évité l'accident. Vous croyez que c'est parce que vous êtes chanceux. Ça ne s'appelle pas chance. Ça s'appelle un miracle. Moi, ça m'arrive tous les jours. Et je dis toujours merci Seigneur. Dans tous les cas, on a un contrat, Dieu et moi. On a des rendez-vous. Donc, je sais qu'il ne peut pas me laisser mourir avant. Il n'y a pas que je conduis n'importe comment. Mais c'est même quand moi je dors au volant, il est là. Tous les jours, il y a des miracles. Vous ne réalisez pas que quand on dort, chaque sommeil est une mort. Se réveiller un matin, c'est toujours un miracle. Il y a des gens qui dorment en parfait état, ils se réveillent le matin, ils sont complètement gonflés partout, le pied ne bouge plus, la main ne bouge plus, début d'une paralysie à vie. Il y a des gens qui viennent trouver le matin morts dans leur lit. Quand on dort, on meurt. Personne ne sait à quelle heure il dort. Et ce n'est pas vous qui vous réveillez. Tous les jours, vous avez au moins ces deux miracles. Votre cœur bat 70 fois par minute, pendant 60 minutes toutes les heures, 24 heures sur 24 que vous dormez ou pas, pompant je ne sais combien de milliers de litres de votre sang par jour. Vous vous blessez, la peau se reconstitue tout seul. Regardez comment un enfant part d'un spermatozoïde invisible pour devenir un bébé qui bouge, qui parle. Et le miracle est quotidien. Mais le Dieu qui est capable de mettre dans le ventre de votre femme à partir de rien un enfant qui bouge, qui parle, on vous dit qu'il peut guérir un enfant qui est né, qui a grandi, vous dites comment il va faire. C'est vous qui avez fabriqué l'enfant? C'est le docteur qui a fabriqué l'enfant? Comment on peut douter de la capacité de celui qui a fabriqué un homme à réparer un homme? Si on est sérieux entre nous, pourquoi vous doutez de ce que Dieu est capable de vous guérir quand vous savez bien que malgré tous les progrès de la science, l'homme n'a pas encore fabriqué d'homme? Pourquoi celui qui peut vous voir comment les enfants poussent dans le ventre? Quand on vous voit, on vous débute une petite masse et ça prend forme, exactement comme l'argile. Dieu façonne. C'est impressionnant. Et il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent. Même les jumeaux, il n'y a pas deux qui sont photocopiés. Depuis des millénaires, des milliards d'années qu'il fait ça, il n'y a pas encore deux photocopies. Le gars fabrique des miracles tous les jours. On dit qu'il va guérir une plaie, on dit comment il va faire. C'est sérieux. On dit, mais les Égyptiens, là, les Israéliens sont bêtes, hein. Mais nous sommes tous bêtes au quotidien. Dieu fait 10 miracles dans votre vie aujourd'hui. Demain, vous continuez de douter de lui sur des choses encore plus ridicules. Parce qu'au fur et à mesure, l'homme oublie ce que Dieu a fait pour se concentrer sur ce qu'il attend que Dieu fasse. Nous ne comptabilisons pas ce que Dieu a fait. Nous nous focalisons sur ce que nous voulons que Dieu fasse. Conclusion, nous ne voyons sur la table de notre cœur que nos insatisfactions, oubliant au fur et à mesure les bénédictions. Chaque matin, les bénédictions de l'Éternel se renouvellent. Chaque jour, il nous bénit. C'est pour ça qu'il faut remémorer, il faut repenser, il faut méditer à longueur de journée les bénédictions de Dieu. Il faut louer Dieu tout le temps. Il faut rendre grâce à Dieu pour tout. Il faut avoir le cœur en joie pour tout. Parce qu'en se concentrant sur ce que Dieu a fait, vous avez naturellement confiance en Dieu. Si chaque fois que vous avez un problème, quelqu'un vous sauve, vous ne pouvez pas douter de lui au prochain problème. On doute de quelqu'un au prochain problème parce qu'on a oublié ce dont il a été capable hier. Et on oublie ce dont il a été capable hier parce qu'on n'a pas noté quelque part ce qu'il a fait. Des fois, moi, quand je sais, je me dis, mais je me plains aujourd'hui de telle chose. Mais à quel niveau j'étais il y a un an? Et vous commencez à vous rappeler, si vous faites des requêtes de prière par écrit, ou bien vous aviez un agenda, quand vous revoyez les choses que vous demandez à Dieu il y a un an, vous avez honte parce que vous êtes surpris de voir, mais mine de rien, j'ai quand même fait un grand chemin ce jour-là aujourd'hui. Mais comme il y a toujours des choses dont on a besoin, on ne voit que ce qui nous manque et jamais ce qu'on a eu. Cette ingratitude-là, au-delà de faire mal à Dieu, a pour conséquence que nous avons du mal à faire confiance en Dieu. Nous regardons toujours ce qui reste à faire au lieu de voir ce qu'il a déjà fait. Le secret de la foi, c'est de se rappeler ce que Dieu a déjà fait pour pouvoir lui faire confiance sur ce qui reste à faire. Tu étais dans une petite maison. Tu te disais, c'est dans 100 ans que je vais avoir une grande maison. Dieu te fait rêver pour te dire que dans une journée, dans 2 jours, tu vas être dans une grande maison. Tu n'y crois pas. Il fait un miracle, tu te trouves dans une grande maison. 2 ans après, le même Dieu te dit que de la même manière, tu vas entrer dans une grande maison. Tu dis, comment ça, cette fois, c'est pas possible, comment ça va se passer? Mais à la limite, Dieu rit en se disant, mais vous oubliez ce que j'ai fait? Tu dis, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Sur le coup, on voit que Dieu est grandi. Alléluia, Dieu est merveilleux. Mais le lendemain, les problèmes nous font oublier ce que Dieu a déjà fait. Le secret de la foi, c'est de garder à l'esprit, d'écrire dans le livre du souvenir ce que Dieu fait. Et quand vous commencez à paniquer, quand vous commencez à avoir peur, quand vous faites face au grand problème, sortez votre livre du souvenir. Relisez ce que Dieu a fait pour vous date par date. Vous n'avez pas lu 2 pages avant de vous dire, mais mon petit, à quoi tu joues? Pourquoi tu as peur? Le gars qui a fait tout ça là, quand même, si vous n'avez rien que Dieu a fait pour vous encore, que c'est impossible, regardez ce qu'il a fait pour les Esther, pour les Abraham, pour les Jacob, pour les Jésus, pour les autres. C'est ça la louange, le pouvoir de la louange. Quand on vous dit avant de prier, de louer Dieu, c'est d'accord pour remercier Dieu. Mais c'est pour vous rappeler vous-même de quoi Dieu est capable, afin de n'avoir aucun doute de quoi il sera à nouveau capable pour vous. Parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait, il le fera encore. Il se retrouve donc au pied de la mer et en dépit de leur incrédulité, Dieu demande à Moïse de lever son bâton. Et aussi merveilleux que cela puisse paraître, c'est peut-être le plus grand miracle du monde. En dehors de la croix de Jésus, la mer rouge s'ouvre et à pied sec, les enfants d'Israël peuvent le traverser. Pendant longtemps, les scientifiques ont dit que c'était impossible, que c'était une méthodologie biblique. Aujourd'hui, la science a démontré avec des simulations à l'appui comment c'était possible. Ils ont démontré qu'à ce niveau-là précisément, il y avait une crête, c'est-à-dire que le fond de la mer, jusqu'aujourd'hui, n'est pas plat. Il y avait une légère crête. Et que, en supposant ce qui arrive de temps en temps, d'après leur propre dire, qu'il y ait un vent d'est et un vent d'ouest, ces 2 vents peuvent avoir pour effet de lever l'eau. Ils ont fait des simulations, des documentaires existent là-dessus. Il est démontré scientifiquement, comme dans un verre d'eau, qu'en soufflant l'eau, le vent, dans une certaine direction, on balaie l'eau. Que si le vent atteint une certaine vitesse, l'eau peut être balayée en un mur. Et la même chose de l'autre côté. Ils ont démontré scientifiquement comment on peut ouvrir la mer. Évidemment, la question, c'est que eux, en grandeur nature, ils ne peuvent pas créer ces 2 vents. Mais ils sont moins d'accord que si Dieu émet des vents, il a pu créer, il a pu ouvrir. Et les données, les sédiments aujourd'hui, prouvent que là, la mer, c'est une fois ouverte. La science confirme la Bible. Elle ne pourra jamais que la Bible ment. C'est la Bible qui pourra toujours qu'elle mente jusqu'à ce soir à jour. Dieu a donc ouvert la mer. Ouvert la mer. Ce n'est pas un cours d'eau, ce n'est pas une rivière. On dit la mer pour que son peuple traverse. Les Égyptiens les ont poursuivis, mais ils ont été noyés parce que quand vous passez, Dieu referme. On sort donc d'Égypte et on se retrouve dans le désert. Notez bien, Égypte, esclavage. Et maintenant, on quitte l'Égypte. Au lieu d'aller à Jéricho, on se retrouve dans le désert. C'est aride, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de belle maison, il n'y a pas de confort. Ils ont dû manger la manne pendant 40 ans. Le plan de Dieu n'était pas qu'ils passent 40 ans dans le désert. Non, le plan de Dieu n'était pas qu'ils passent 40 ans dans le désert. Mais Dieu nous dit ailleurs dans la Bible, et il faut lire la Bible dans son ensemble pour comprendre des choses, je vais le conduire dans le désert pour parler à son cœur. Dieu dit que quand il aime quelqu'un, il le conduit dans le désert pour parler à son cœur. Dieu ne peut pas vous parler au milieu des femmes, du pouvoir, de l'argent, de la politique, des meetings. Ce n'est pas possible. Vous ne l'entendez même pas. Parce qu'il a déjà dit à Élie, il a un vent doux, subtil. C'est un murmure. Dieu ne crie pas. Quand Dieu parle à votre cœur, il est tellement doux que s'il y a du bruit autour de vous, s'il y a du bruit dans votre cœur, vous ne pouvez pas l'entendre. Les bruits dans votre cœur, c'est quoi? La peur. La peur, c'est quoi? C'est un démon dans votre cœur qui te dit tout ce qui peut te faire peur. Tu as vu, c'est la fin du mois. Le propriétaire va arriver maintenant. Tu ne vas pas dormir. Il va t'ouvrir la porte. Il va enlever le toit. Tant pis pour toi. Demain, tu auras faim. Regarde, tu as 500 francs. Comment tu vas faire? Si tu prends 1 million pour aller au bureau, tu vas manger quoi à midi? Et même si quelqu'un te donne à manger à midi, tu vas manger comme le soir. Donc, le diable est dans votre cœur et il passe tout son temps à vous rappeler de quoi ne pas dormir. Pendant ce temps, une voix très petite dit, n'ayez peur de rien. Demain, ceci fera lui-même. Il dit, demain, ceci fera lui-même. On va voir. Pas les tâches pour la qui de l'argent. Demain, la classe fera lui-même. Vous n'avez pas vu que c'est comme ça se passe dans votre cœur? Ce n'est pas vous qui décidez avec vous-même. C'est Satan qui parle à votre cœur. Le Saint-Esprit vous répond. Le problème, c'est que quand les démons finissent de faire le débat, qui vous croyez? En général, le peureux, celui qui ne peut pas dormir, celui qui a des soucis, celui qui est stressé, comme on l'a vu mercredi dernier, c'est celui qui finit par croire que il semble que c'est Satan qui a raison. Il vaut mieux ne pas dormir, se faire des soucis, pleurer, mendier, se suicider, se plaindre, au lieu d'écouter la petite voix qui dit « N'ayez peur de rien, je suis là. » Qui est jamais mort de faim? Moi, je n'ai pas mourir de faim. L'oiseau ne meurt pas de faim. Tu n'as pas mourir de faim. Je ne t'ai pas racheté au prix de ma vie. Pourquoi tu meurs de faim? Même si le lion se mange de nourriture, toi, tu mangeras. Mais cette voix-là ne crie pas. Elle ne vous force pas à l'écouter. Vous êtes libre de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Celui qui l'écoute, c'est celui qui a de la foi. Celui qui a de la foi, il a la paix de Dieu. Rien ne peut le troubler, quelles que soient les épreuves. Même s'il est dans le feu, il ne peut pas brûler. Parce que la paix est en lui, la fraîcheur est en lui. S'il est, il ne peut pas être noyé. Parce qu'il est lui-même la solution. C'était le cas de Jésus. Et c'est le cas de tout chrétien. Le chrétien vit dans le feu. Le chrétien marche dans l'épreuve. Le chrétien est tout le temps persécuté. Ça, c'est clair. Il dit, vous aurez des tribulations, c'est garanti. Mais vous vaincrez, parce que j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur. Le monde, après toi, a des tribulations. Il n'y a personne dans le monde qui n'a pas de problème. La question, c'est, voulez-vous avoir des problèmes? Ne rien pouvoir contre les problèmes. Avoir des soucis. Mourir de soucis. Et en plus, passer l'éternité dans l'enfer. Ou quitter à avoir des problèmes. Avoir la victoire sur les problèmes. Vivre en paix dans les problèmes. Et garantir le ciel. C'est le choix que vous avez à faire. C'est à vous de choisir. Ce n'est pas affaire seulement de je confesse que Jésus est Seigneur, je vais à la messe tous les dimanches. Ça, là, c'est négocié avec Satan pour rester en Égypte, mais en acceptant de lui laisser faire pour quelque chose. Sortez définitivement de l'Égypte, ne concédez rien à l'Égypte. Mais quand vous arrivez dans le désert, parce que vous allez arriver dans le désert, si vous connaissez Jésus, si vous quittez le monde, il n'y a rien à faire, vous rentrez dans le désert. Personne n'est jamais venu au Seigneur sans aller dans le désert. Si vous venez au Seigneur, vous n'êtes pas de désert, c'est que vous êtes encore en Égypte, vous croyez que vous êtes dans le Seigneur. Je l'affirme, écrivez, il ne faut pas avoir peur d'écrire. Que si depuis que vous êtes venu au Seigneur, vous n'avez pas encore traversé le désert, c'est que vous n'êtes pas encore dans le Seigneur. Vous êtes certainement encore en Égypte et vous croyez que vous êtes dans le désert. Vous êtes avec Dieu. Même Paul, quand Dieu a rencontré Paul, il est parti pendant 3 ans dans le désert d'Arabie, caché de tout le monde. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Mais quand il est revenu là-bas, c'est là où on a vu le Paul nouveau, étincelant, puissant. On ne sait pas ce qui s'est passé. Jésus est parti avant de démarrer son ministère 40 jours dans le désert, pendant lesquels il a été éprouvé, il a été édifié, il a été formé. Jacob a traversé le désert. Abraham a traversé le désert. Moïse a traversé 40 ans de désert. David, 40 ans de désert. Le désert, le désert, le désert. Dieu vous éloigne de tout. Élie, dans le désert. Dieu vous éloigne de tout. Des manipulations, des pressions de la vie, des convoitises. Il vous ramène à une petite expression. Il vous cache du monde. Il vous met à l'abri des regards. Et là, il vous forme. Il vous éprouve. Il vous casse. Il vous brise. Il vous formate. Il vous nourrit de la manne. Ce n'est pas de la bonne nourriture, mais c'est de quoi ne pas mourir de faim. Il fait le strict minimum et vous met dans une école. C'est un camp d'entraînement. Pendant ce temps, vous êtes brisé. Tout votre orgueil disparaît. On ne vous reconnaît plus. On vous oublie. On croit que vous êtes fini. Et on dit, oh, le gars, il est fini. Il faut l'oublier, il est fini. Mais quand vous allez sortir du désert, ils vont savoir que Dieu a fait quelque chose. On rencontre là, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand? C'est quand? C'est le même que je connais là? Oui, c'est le même. Maintenant, il a passé dans le désert. Regardez, même au niveau mondain. La plupart des grands hommes ont traversé le désert. Les Lincoln, les Martin Luther King, les Mandela. Regardez leur histoire. C'est toujours des gens qui ont fait le désert. Ils ont fait le désert. Quand vous êtes dans le désert, vous êtes entre l'Égypte et Jéricho. Vous êtes à un moment où vous êtes resté en Égypte trop longtemps. Vous avez eu de mauvaises habitudes. Les pratiques idolâtres des païens, les habitudes des païens, leur manière de penser, leur manière de parler, leur rituel, leur logique. Vous êtes contaminé. On ne peut pas vous sortir de là et vous amener dans la terre promise. Vous allez contaminer la terre promise. On doit vous mettre dans un sas de sécurité entre les deux, où on vous lave, on vous rééduque. C'est l'équivalent d'un camp d'entraînement militaire. Tu ne peux pas quitter le monde et rentrer dans l'armée, on doit te mettre quelque part où on te casse, on te brise, on te fait faire la marche fourragère, la marche, je ne sais pas quoi là. On te reformate. C'est ça le désert. Loin de tout, seul, éprouvé, avec Dieu seul. Parce que comme vous êtes loin du monde, il n'y a pas du bruit. Comme Dieu parle toujours de manière subtile, si vous êtes dans un environnement où il y a du bruit, bruit extérieur, mais aussi bruit intérieur, vous ne pouvez pas entendre Dieu. Pour couper les bruits intérieurs, louez Dieu. Parce que les bruits intérieurs sont toujours le fait des petits démons qui vous effraient. C'est des épouvantails qui vous font peur. La seule manière de chasser ces épouvantails de votre cœur, c'est la louange. C'est-à-dire, autant ils vous font peur, autant regarder, contempler, réaliser. Je ne dis pas d'inventer, je ne dis pas de faire des flatteries à Dieu. Il va dire, oui, on dit loué. Merci Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es l'alpha. Puis vous racontez des bêtises sans savoir de quoi vous parlez. Ça, c'est pas la louange. Les musiciens peuvent faire ça, on leur demande de chanter, ils chantent. Ça, c'est là. C'est pas de cette louange que je parle. Je parle de la louange en esprit, en vérité. S'assoit là, elle se dit, mais cette semaine qui vient de s'écouler là, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Vous rappelez chaque accident évité, chaque situation où vous avez des problèmes, quelque chose s'est réglé, chaque personne qui vous a appelé de manière inextrémiste. C'est-à-dire, prenez le temps, même à la fin de la journée, dis-moi, regardez tout ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui. Et tout ce qu'il aurait pu ne pas faire. Il y a des gens qui se lèvent, même pas il y a des gens. Tous ceux qui meurent se sont levés le jour, ils sont morts. Ou bien, mais ils ne se sont pas couchés. Prenez de temps en temps le temps de contempler sincèrement ce que Dieu fait pour vous. Ce qu'il est en train de faire. De voir à quel point c'est impressionnant. Dites-lui merci, non pas de manière folklorique avec des chants de tout le monde, mais dites-lui sincèrement merci de telle chose. Parce que vous êtes impressionné par telle chose. Rien ne vous est dû. D'être en bonne santé, ce n'est pas un droit, c'est une grâce. D'avoir des enfants, ce n'est pas un droit, c'est une grâce. D'avoir de quoi manger sans mendier, ce n'est pas un droit, c'est une grâce. D'avoir des clients qui arrivent, c'est pas un droit, c'est une grâce. D'avoir des parents que vous pouvez appeler pour dire comment ça va, c'est une grâce. C'est le jour de votre anniversaire que quelqu'un vous appelle, c'est une grâce. Rien ne vous est dû. Si vous prenez la peine de compter les grâces de Dieu, vous n'allez jamais finir de lui dire merci. Vous devez donc louer Dieu afin que les démons qui vous effraient disparaissent de votre cœur. Qu'ils disparaissent de votre cœur, Dieu vous parle. Et quand il vous parle, il vous formate, il vous conduit, il vous instruit. C'est le moment où il vous révèle votre destinée. Il vous dit, comme Abraham, ce qu'il attend de vous. Il vous dit ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a des grands que vous allez avoir, Dieu va dire à ce moment-là, oublie-moi ça, ce n'est pas fait pour toi. Il y a des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé, il va dire ça, c'est ça que je veux. Il y a des choses que vous sentez toujours, il va dire effectivement ça, tu as raison de le sentir, c'est moi qui t'ai mis ça au cœur. C'est dans cette direction que tu dois aller. C'est des moments où Dieu chamboule complètement votre vie. Quand vous sortez désert, on ne doit plus vous reconnaître, vous êtes une autre personne. C'est là où la parole de Dieu dit, en Jésus, toutes choses deviennent nouvelles. Vous ne pouvez pas venir à Jésus et être l'ancienne personne. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais venu en Jésus, il ne faut pas vous mentir à vous-même. En Jésus, toutes choses deviennent nouvelles. Parce qu'on passe par le désert. Vous allez avoir des épreuves. Vous allez commencer à parler de Jésus. Parfois, votre propre femme, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos collègues, on va se moquer de vous. Certains ont perdu leur emploi à cause de leur foi. Certains ont perdu leur mari et leur femme à cause de leur foi. Et s'ils ne le perdent pas, ils commencent à vivre des problèmes. Il n'y a rien à faire pour ne pas traverser le désert si on rentre vraiment dans le Seigneur. Mais c'est la partie, c'est le moment le plus bénéfique d'une vie. C'est à ce moment-là que la nouvelle personne naît et fait ses premiers pas. À ce moment, vous devez être un gourmand, un glouton de la parole de Dieu. Lire, comprendre. C'est le moment où il faut connaître Dieu. Plus vous le connaîtrez, plus ça va être facile pour lui. Parce que même si le Saint-Esprit veut vous parler, si vous ne comprenez pas sa langue, il ne peut pas vous parler. Si tu connais la Bible, le Saint-Esprit, il lui suffit de te faire venir verser à l'Esprit, tu sais qu'il veut te parler. Mais si tu ne connais aucun verset, il peut pas, tu ne connais rien de la Bible. Il ne peut pas te faire venir ça à l'Esprit. Tu ne connais aucun mot français. J'utilise un mot français. Tu n'as rien compris. C'est comme si je n'ai rien fait. Vous me suivez là parce que avant de venir ici, vous connaissiez des mots français, leur sens. Sinon, si je parle, vous ne comprendrez rien. Ou bien, si je mets à parler charabia, ou bien si je mets à parler, je sais pas, arabe maintenant, vous n'allez rien comprendre parce que vous ne connaissez rien de l'arabe. De la même manière, si vous ne connaissez rien de la parole de Dieu, même si le Saint-Esprit commence à vous parler la parole de Dieu, vous ne comprendrez rien. Vous ne réaliserez pas qu'il vous parle parce que vous ne connaissez pas sa langue. Le désert est un moment très très précieux où le Seigneur va vous édifier. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui, peut-être prendre quelques questions s'il y en a. Demain, nous allons continuer. Nous allons regarder en détail ce qui s'est passé avec les Juifs dans le désert. Quels sont les grands problèmes qu'ils ont eus? À quoi correspondait chacun de ces problèmes? Pourquoi ça leur est arrivé? Quelles leçons ont tirées? Ensuite, comment ils ont fait pour rentrer à Jéricho? Pourquoi Moïse n'y est pas rentré? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils y sont finalement rentrés? Et qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie? Parce que vous devez traverser le désert. Si vous l'avez déjà traversé, alléluia. Et encore que ce n'est pas toujours un désert. Ça peut être des déserts. Parfois, c'est un gros désert, souvent en début de ministère ou de vie chrétienne. Mais après, ça peut être plus simple, mais il y aura toujours des épreuves. Comment traverser votre désert? Quelles leçons tirer du désert? Toute une génération est morte dans le désert. Beaucoup de chrétiens meurent dans le désert. C'est ça qu'on appelle les appelés, mais qui n'ont pas finalement été élus. Ils sont tous sortis d'Égypte parce qu'ils ont tous été appelés par Dieu à le rejoindre. Mais beaucoup ne sont jamais rentrés à Jéricho. Nous ne sommes pas encore à Jéricho. On ne peut pas être à Jéricho, être à moto, ou être à pied, ou être en voiture. On doit être heureux. Aucun de nous n'est entièrement heureux ici. Même moi qui suis ici, je ne me définis pas comme heureux. En tant qu'enfant de Dieu, ce serait un mépris que de dire que je ressemble à un vrai enfant de Dieu. Je ne suis qu'en gestation vers ce qu'est un vrai enfant de Dieu. Jéricho, c'est la terre où coule le lait, le miel, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de meilleur. Je n'en vois même pas au Bénin. Pendant que des chrétiens ont des jets privés, pendant qu'ils sont capables d'avoir des milliers de personnes, de créer des réveils, et ainsi de suite, qu'est-ce que nous allons faire au Bénin? Nous sommes le Bénin tout entier spirituellement dans le désert. Certains, beaucoup, sont sortis de l'Égypte, mais beaucoup sont encore dans le désert. Beaucoup sont dans le désert. Quelle église a contre nous à 3000 fidèles? Des vrais chrétiens, je ne dis pas la foule qui vient pour que le pasteur prie pour eux, s'en vont. Qui? On est dans le désert. L'église du Bénin est dans le désert. Le pays où coule le lait, le miel, là, moi je n'ai pas encore vu ça au Bénin. Et pourtant, il faut que ça arrive. Il y a encore la mur de Jéricho. Le 10 janvier, là, c'est ça un pays où coule le lait, le miel. Faites tomber la forteresse du 10 janvier. Je saurai que vous êtes des chrétiens. Ou faisons tomber la forteresse du 10 janvier. Nous saurons que nous sommes des chrétiens. Et les enfants là, à tous les carrefours, il y a des pratiques païennes. Les chrétiens ne font rien. Ils fuient. Ils évitent simplement en circulant les trucs qui ont encore pu continuer leur chemin, comme si de rien n'était. Oui, allez-y. Il y a des questions?
Oui.
Si on vous élit président,
oui.
Pourriez-vous supprimer les 10 janvier?
Je m'y engage. C'est la première décision que je prendrai s'ils n'ont jamais la malchance que je suis président. Et si c'est un 9 janvier, ça n'aura pas lieu le lendemain. Je l'affirme sur l'honneur, quoi qu'il m'en coûte. S'il faut mourir pour ça, au moins le ciel me sera garanti. Une autre question? Oui.
Je cherche à comprendre pourquoi Dieu n'a pas permis à Moïse, lui qui a aidé le peuple à sortir d'Égypte, pourquoi Dieu n'a pas permis à Moïse d'entrer, sinon d'arriver aussi à Jéricho?
C'est la première chose qu'on va expliquer demain. Demain, c'est la première chose qu'on va expliquer. Mais c'est très important à comprendre. On va l'expliquer demain. D'autres questions? Rappelez-moi, si jamais j'oublie, rappelez-moi cette question dès le début du séminaire demain. D'accord? Nous allons prier, nous continuons demain.
Excellent Père de gloire, je veux te dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'une fois encore tu as été là. C'est vrai Seigneur que j'étais très fatigué. Je te remercie parce que j'ai roulé toute la journée hier, j'ai roulé toute la journée lundi, j'ai roulé toute la journée aujourd'hui. Mais tu m'as permis de sortir de ce long voyage et d'avoir encore la force d'enseigner ta parole sans y être préparé. Je te remercie Seigneur. Merci Seigneur parce qu'éternellement fidèle, tu es toujours là. Chaque fois que nous avons le temps de venir à tes pieds, tu es toujours là. Tu réponds toujours avec autant de merveille, autant de brio, autant de célérité. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos cœurs respectifs aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce que tu as donné à chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ceux et celles que tu as édifiés. Qu'il te plaise, Seigneur, de faire de ce jour un nouveau départ, une nouvelle naissance pour nous en matière d'acquisition de la sagesse. Qu'il te plaise, Seigneur, au nom de Christ Jésus, de briser tous les liens qui nous lisent encore à ces raisonnements qui s'élèvent contre ta connaissance, à cette sagesse païenne, à cette intelligence, à cette théorie vile qui nous empêche d'ouvrir les yeux, de voir que tu es Seigneur. Seigneur, fais-nous la grâce de revenir à la vérité. Enlève les écailles de nos yeux. Donne-nous de voir la vérité. De voir la vérité. Donne à chacun de nous la force de rejeter toutes ces vérités qui ont pour définition d'aller à gauche, à droite et partout à la fois. Oui, Seigneur, qu'il te plaise de donner à chacun de ceux qui sont ici la grâce de ne plus être jamais l'otage des thèses, antithèses et synthèses. Donne-nous la grâce, Seigneur, de rechercher la vérité, de venir à tes pieds pour apprendre la vérité. Donne-nous d'écouter la vérité, de comprendre la vérité, de mettre en application la vérité, de réussir dans tout ce que nous ferons au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, je te prie, dans notre pays le Bénin, en Afrique en général et dans le monde, de faire échouer encore plus que tu le fais aujourd'hui, toute cette théorie païenne, tous ces modèles sataniques qui sont en train de nous embrigader, toute cette théorie qui donne l'impression aux gens inavertis qu'elles sont brillantes. Qu'il te plaise, Seigneur, de continuer de les confondre, de les mettre à nu, afin que ceux qui sont de bonne foi réalisent que tu es le seul Seigneur. Merci Seigneur parce que tu souffles un vent de ta sagesse, un vent de ta crainte, un vent de ton intelligence, un vent de tes bénédictions, un vent de ta faveur sur notre pays le Bénin. Oui Seigneur, nous avons plus que jamais besoin de toi dans ce pays, non pas seulement en chantant, en dansant, mais donne à chacun de nous de s'intéresser à ce pays, d'intercéder pour ce pays, de prier pour ce pays Seigneur. Oui, donne-nous la force chacun d'être des vecteurs de paix, donne-nous la force Seigneur d'être des témoins de Jésus, donne-nous la force Seigneur d'être des gens qui donnent envie, que par les temps difficiles on puisse dire en nous voyant, c'est différent pour vous. Partagez avec nous le secret. Oui, Seigneur, fais de nous des sujets de réussite extraordinaire. Que quand le monde pleure, nous soyons en paix. Que quand le monde est triste, nous soyons en joie, Seigneur. Que quand le monde est malade, nous soyons guéris, source de guérison, Seigneur. Que quand le monde est pauvre, nous soyons prospérité. Que nous n'en prêtions plus les autres, mais que plutôt ce soit nous qui le prêtions. Oh, Seigneur, fais de nous des témoins. Fais des membres du club Jésus pour réussir une race à part, une race de chrétiens prospères, qui t'aiment, qui te servent, qui t'obéissent, qui sont humbles, mais qui portent des fruits. Oui, Seigneur, tu as dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation de tes vrais enfants. Donne-nous la grâce de cela, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu étais là. Merci, Seigneur, parce que tu bénis chacun dans ses affaires. Tu bénis chacun dans son travail. Tu connais le cœur de chacun de nous. Tu sais de quoi nous avons besoin, Seigneur. Dis seulement, nous serons guéris. Fortifie-nous, éclaire-nous, instruis-nous. Guide-nous, Seigneur. Donne-nous d'avoir la grâce de l'intimité de ton Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos pensées, de nos paroles, de nos actions et de toutes nos omissions, Seigneur. Nous voulons être tes esclaves. Merci Seigneur parce que tu protèges chacun de nous dans son retour. Tu veilles sur nous, tes anges nous accompagnent. Ils sont avec nous partout où nous sommes. Ils veillent sur notre vie. Ils veillent à ce que nous obéissions Seigneur, que nous marchions dans tes voies.
et que rien ni personne, ni la mort, ni l'enfer, ni les anges, ni la domination, ni rien du tout ne vienne nous séparer de ton amour. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour tout cela. Merci Seigneur parce que nous sommes encore unis demain dans le même esprit, avec foi, pour t'écouter, pour apprendre, pour grandir. Fais de nouvelles choses encore demain dans notre vie et qu'il te plaise de garder ta faveur sur ce pays au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Je te remercie aussi pour tout ce qui a été aux examens. Nous sommes réunis ici, nous t'avons prié. Nous avons prié entre autres de manière juste à édifier la foi des gens pour qu'à aucun examen cette année, ni au CP, ni au BPC, ni au bac, pas une seule goutte de pluie ne frappe un enfant qui va à l'examen. Tu l'as accompli, Seigneur, de manière extraordinaire. Je veux te dire publiquement merci, Seigneur. Ce n'était pas évident. Nous sommes en saison des pluies. Il pleut presque toujours cette année. Nous avons osé élever la voix pour dire qu'il ne pleuvra cette année sur aucun des membres de ce club en allant à l'examen. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait 3 sur 3. Merci, Seigneur. Je te rends témoigne pour cela. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous rappelles tous les jours que nous avons le pouvoir de nous tenir la brèche. Tu as dit que tu as voulu détruire des peuples. Il t'aurait suffi de trouver une seule personne qui élève la voix. Et tu n'as trouvé personne. Qu'il te plaise de toujours trouver au cœur de Jésus pour réussir des gens qui élèvent la voix pour ce pays, des gens qui élèvent la voix pour des gens que tu veux sauver. Fais de nous des intercesseurs. Seigneur, te remercions. Que ton nom soit béni au nom de Christ Jésus. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Didibi et Hermione Huygan. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution